102.1.
Autre journée d'actualité folle, les amis. Ça revole de partout. Et Charles Milliard a mis son pied à terre pour Sona Lakoyenne Olivier. On a attendu un petit peu longtemps avant qu'il mette son pied à terre, par contre. On parlera de ça tantôt avec Lambert Drainville, qui va nous faire son résumé de la semaine. C'est qui est gagnant et les perdants en politique? S'en est-tu passé des affaires? On est passé par le dossier santé numérique qui va commencer demain. À l'itinérance hier ici, à Québec, annonce. Aujourd'hui, une autre annonce sur les soins à domicile.
Ouais.
On s'est chicané sa loi Gabi Renault parce que PSPP s'était pas levé. Hey, c'est une grosse semaine hein, pour Christine Fréchette à son entrée à l'Assemblée nationale.
C'est une énorme semaine. Juste le DSN, c'en est une assez intense. J'aurais laissé faire le débat, genre qui se lève, qui se lève pas, on applaudit pas.
Non, c'est ça.
Des fois, c'est un peu des bruits de fond. Je comprends la forme, mais Colin, on a assez, je pense.
En plein, ça. Hey, l'Alberta qui veut faire un référendum sur son indépendance.
Oui, ça se discute depuis un bout, ça.
Oui, et là, bien, Daniel Smith a rencontré Mark Carney aujourd'hui. D'après moi, le Canada a plus peur de perdre l'Alberta que le Québec.
Je pense que oui.
Puis d'ailleurs,
en ce moment, au niveau économique. Peut-être, mais là, je veux pas. Tu sais, on connaît peut-être pas
tout. Oui, mais on va poser la question à Gabriel Giguère parce qu'on va l'avoir avec nous après les manchettes, justement, parce qu'il y a des grosses nouvelles économiques à discuter. Là, ça va pas bien au niveau de l'emploi au Québec. Donc, on va parler de ça avec Gabriel Giguère, évidemment. Parlant de politique, bien, ça a brassé hier sa carte électorale. Tu te souviens, dans le caucus, on a dit avec Antonine Iaccarini, bon, on passe à 127 circonscriptions. Yuri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme, il a dit, wow, minute, là, on n'est pas en train de faire les affaires comme il faut. Moi, je dis non. Puis parce qu'il a dit non, ça se fera pas. Fait que... je vais l'appeler de même pour le fun. Là. Le chauffeur d'autobus du camp du nom de la carte électorale va être avec nous aux alentours de 13h30. Lui, il a mis son pied à terre, Yuri Chassin. On va jaser un peu avec lui aussi de la première semaine de Christine Fréchette. T'sais, il a déchiré sa carte de la CAQ, mais est-ce qu'il se retrouve plus dans une CAQ de Christine Fréchette de ce qu'il se retrouvait dans la CAQ de François Legault? Puis évidemment, ça m'intéresse qu'est-ce qu'il veut faire après la politique. C'est un homme d'affaires là, reconnu. Là, donc, qu'est-ce qu'il va faire justement après la politique? On va jaser de ça avec lui. Puis c'est sûr, Pascal, que je veux te jaser du dossier de Patrick Bruel.
Oui, on avait effleuré
le
cas quand c'était passé.
De femmes, 15 autres femmes qui ont témoigné. C'est le média Mediapart en France qui a sorti le tout. Hey, jusqu'à une mineure qui aurait été agressée sexuellement.
Ça, tu te rappelles, j'en ai parlé il y a plusieurs mois parce que je suis beaucoup les médias en Europe. Là. Ça fait partie de soit une déformation professionnelle, un problème, un fixe ou encore tout simplement une fille qui est passionnée d'actualité. Puis ça sortait. Puis quand on parlait de mineure dans ce dossier-là, à chaque fois, je me rappelais ces chansons puis je me disais, mais malaise. Tu sais, qui a le droit, droit de faire ça à un enfant? Tu sais, qui croit vraiment à ce que disent les grands. Moi, j'ai toujours dans le malaise face à ce genre d'affaires-là. Tu sais, les artistes là, qui sont tellement appréciés puis qui passent à côté de critiques parce qu'on les aime donc bien. C'est arrivé à Éric Lapointe, c'est arrivé à Gérard Depardieu. Se fait énormément défendre. Et je viens même avec un malaise.
Okay.
Tu l'as sorti. Pour pas m'aider.
Ça s'en vient, là.
Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça à un enfant?
Ah, qui a le droit de faire ça à un enfant?
Qui voit
vraiment ce que disent les grands?
Imagine, si jamais il était reconnu coupable, il chantait ça sur la scène, quand il descendait de la scène, il agressait sexuellement une mineure.
Tu sais... il a écrit lui-même sur quoi on pourrait l'afficher une niaisée. Là, vous allez me dire, c'est pas ça le fond de sa toune. Ben non, il parle pas d'une agression
d'un enfant.
Mais quand même, je trouve que ça m'amène à me sentir mal. Au même point que ça ramène toujours le débat, en ce moment, il y a un film sur la vie de Michael Jackson au cinéma. Plein de gens s'y dirigent parce qu'ils adorent l'œuvre de l'homme.
C'est ça, mais
c'est loin d'être rose, là, le côté sombre de tout ça.
Ouais, exactement. Là. Disons que parce que c'est Michael Jackson, il n'a jamais fait de prison pour pédophilie, mais mettons que quand tu as des enfants qui sont pas les tiens, qui dorment dans ton lit...
Ça, c'est une affaire.
C'est ça. Donc, quand tu te construis ton propre Walt Disney pour amener les enfants sur ton terrain...
Ça me rend tellement pas bien, là.
Ben, c'est ça. J'irai pas voir le film. OK, je te le dis.
Toi, ta décision est prise.
Oh, moi, ma décision est prise. Puis pourtant, tu sais, moi, là, Michael Jackson, tu sais, comme Patrick Bruel.
T'as dansé, t'as chanté, t'as trippé
ben,
sur son
moi, là, mes parents écoutaient
ben
ça.
Oui.
Tu sais, Patrick Bruel, là, mon père avait la cassette, mettait ça dans le char quand on faisait un aller-retour Québec-Montréal.
Je pense que je connais.
Qui
au moins
a le
quatre
droit,
tounes.
Je le connais par cœur.
C'est ça, par cœur, moi aussi. Je trouve que
ben
c'est
oui,
lève
on
quand même.
C'était donné rendez-vous dans 10 ans. Non, mais tu sais, je connais même tout, ces tounes-là. Mais c'est ça, je veux t'en parler parce qu'il va être de. C'est pas encore cancellé. Il est de passage à l'Olympia à Montréal. Mm-hmm. Puis ici, à Québec, je me trompe pas, c'est au Grand Théâtre, là, je vais ressortir la... Là, je me dis, est-ce qu'il faut annuler ces spectacles-là? T'sais, on se situe au Québec par rapport à un gars là, que
parce qu'il
on
est présumément.
Rendu... C'est ça, il est présumément. De... Exactement. Mais tu sais, on fait quoi? Parce que je vais juste donner l'exemple. Là. Moi, cet été, là, je l'ai dit, là, le... chanteur country américain là, qui était full MAGA, pro-choix. Qui... Ben moi, je m'étais positionné en disant c'est bien correct que la ville de Québec, parce que là, c'est un événement subventionné par la ville. J'aurais dit, bien correct que la ville dise, hey gars, je ne m'associerai pas à lui. S'il ouais. veut faire un spectacle ailleurs, qu'il le fasse, mais ce ne sera pas sur mes terrains.
Mais c'est vrai, il s'en vient là, à l'Olympia de Montréal, puis 3 dates aussi au théâtre Capitole
ouais,
de Québec.
Oui, Capitole de Québec.
C'est
qu'on
pour
fait quoi?
La tournée qui célèbre ses 35 ans là, de mm-hmm. l'album Alors Regarde. Puis il y a une grosse pétition là, du côté de l'Europe, là, entre autres l'AFP.
Oui.
L'AFP, c'est un média là, qui l'a publié puis qui s'est soutenu par bien des actrices qui se disent ah non, là, à un moment donné, en procès, on arrête ça. On suit le cours de la justice, puis on verra. Je sais pas comment les gens se positionnent là-dedans. C'est super difficile. C'est un débat ouais. qui est émotif aussi. Là.
Ben exactement. Fait que je veux qu'on en parle un petit peu plus tard. Puis justement, vous pouvez répondre immédiatement aussi au 418-971-1021. Vous faites quoi? Là? Mettons que Patrick Bruel, c'est un de vos artistes préférés. Puis là, mettez-le dans votre tête si c'est un de vos artistes préférés. Puis quand je vais prendre un exemple pour les auditeurs de Boulevard, Rammstein.
Ouais.
Rammstein, là, ça a été reconnu, le chanteur de Rammstein. Il y avait des petites filles de 15-16 ans qui traînaient autour, puis bon, de la drogue, puis pas mal d'affaires. T'sais. Ben moi, plus jamais, je vais aller à un show de Rammstein.
Même, est-ce que tu vas écouter encore?
J'en écoute plus non
la
plus.
De... Okay.
J'en écoute plus non plus.
Moi, souvent, je me sens trahi. Trahi parce que je... Dans ma tête, c'est un tout. Là. Tu sais, quelqu'un mm-hmm. qui donne du divertissement, qui est là, qui aime la foule. Je me dis, Colin, ta foule est là, t'en prends soin. T'en... Non. Je me sens souvent trahie, mais je me ouais. sens très divisée dans ces affaires-là.
Bon, fait que vois-tu, on en parlera un petit peu plus en détail tantôt parce que c'est ça. Tu sais, moi, si j'avais des billets pour Patrick Bruel au Théâtre Le Capitole, ils sont déchirés, ils sont aux poubelles, c'est fini.
En même temps, tu le vois sur scène, là, tu le vois plus de la même manière. Je peux pas croire que t'apprécies autant ton spectacle ben, si tu y vas. Là,
tu me
comme...
vois-tu chanter qui a le droit avec lui?
Ben non, non, non. Sauf que ça arrive, là, on sort du contexte de Patrick Bruel. Je sais qu'on va en reparler, mais ça m'allume bien gros.
Ben, Gab, parlons-en donc tout de suite, ma gaillère.
On s'excuse, Gab, on arrive dans,
c'est ça,
dans 30
on arrive
secondes.
Dans pas long, Gab Giguère.
Mais je... où j'allais avec ça, c'est... Tu sais, Jeff, quand... ça arrive, puis là, ton artiste est devant toi, puis là, tu le vois plus de la même manière et tout ça. Sors de Patrick Bruel, va-t'en dans n'importe mm-hmm. quel cas, il y a de fausses accusations parfois. Puis
oui.
c'est vrai parfois qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui ont de la vengeance, qui ont mm-hmm. ci, qui ont ça. Moi, je connais un cas là, que ça a été ça, puis la personne, elle a réussi à le prouver, mais mettons que ça s'en allait plus loin, là, ça aurait pu avoir des dommages épouvantables sur sa vie. Puis c'est toujours... en défaveur de l'homme. Ben,
ouais.
C'est beaucoup en défaveur de l'homme. Puis, en même temps, je suis vraiment pro porter plainte quand il arrive quelque chose.
Ben,
puis que la justice se reconnaisse. Hey.
Puis là, j'ai-tu le tribunal public? Moi, j'ai-tu mon gauge à tribunal public trop élevé? Parce qu'il y a une autre salle d'auditrice qui m'écrit « Hey, faux! » Puis continue à réagir au 418-971-1021. C'est super intéressant. « Faux, Rammstein n'ont jamais été déclarés coupables. »
Mais t'as pas dit qu'il était coupable.
Il a même été disculpé. J'ai pas dit qu'il était coupable. Moi, j'ai dit qu'avec toutes les rumeurs qu'il y a eues,
qu'on
ça
a mis
m'intéresse
en lumière,
plus.
Ouais,
c'est mais ça. C'est pour ça que je pose la question, puis répondez-moi, puis tu peux me répondre toi aussi, Pascal. J'ai-tu le gage à tribunal public trop élevé, moi?
Ben,
moi, là, la violence sexuelle, je suis tellement pas capable ouais. que dès qu'il y a des rumeurs, on dirait que je me bloque. T'es Éric Lapointe, j'irai plus jamais le voir.
Mais ça, c'est reconnu.
Mais ça, c'est reconnu, violence conjugale, c'est ça.
Quand c'est pas reconnu, moi, j'essaie fortement de pas être dans la team... dans l'équipe, on cancelle immédiatement. J'essaie fortement mm-hmm. parce que je me dis, si c'est pas coupable... Par contre, la justice m'a tellement déçu à de nombreuses reprises sur des affaires qu'on donne des peines bonbons, que ça va pas assez loin, que je sais qu'on en échappe, puis je sais que c'est pas un système de justice qui aide réellement les victimes, là, celles qui vivent des choses puis qui ont le courage d'aller de l'avant quand ça échoue parce que t'as pas été capable de te représenter puis te rappeler exactement de ce qui s'est passé à telle date, à telle heure. Puis en plus, t'es drogué ou quoi que ce soit par la personne, t'arriveras pas à te défendre dans la juste mesure. Puis ton agresseur ou ton agresseuse va être encore en liberté. Ça aussi, ça me saisit. Ben, je fais partie de ceux qui n'arrivent pas à se positionner.
Vois-tu, je pense pour ça que mon gauge à tribunal social est trop élevé.
Parce que tu veux mettre une limite à quelque part?
Je suis trop déçu de la justice. Je suis trop déçu de la justice sur les cas de pédophilie, sur les cas d'agression sexuelle où les gens s'en sortent, je trouve, trop facilement. Fait que vu que je suis trop déçu de la justice, puis là, c'est inconsciemment, mais là, je m'en rends compte consciemment, je mets ma propre limite plus sévère.
J'ajoute quelque chose.
Vas-y donc.
Je pense que dans certains cas, il y en a qui s'en sont permis parce qu'il y avait l'aura de l'artiste, il y avait l'aura de l'appréciation.
Convaincu de ça.
Il y avait des
aussi.
Gens qui allaient les défendre corps et âme pour n'importe quelles actions, parce que ça nous arrive tous à un moment ou à un autre de manquer de jugement ou que l'émotif l'emporte. Puis mon Dieu, qu'on tripe sa personne, puis qu'elle est fun, puis qu'elle chante des belles chansons, puis qu'elle est venue me chercher dans des. Puis c'est humain. Mais ça, par contre, je me le garde en tête parce que je crois sincèrement qu'une panoplie d'individus public qui en ont profité.
Mm-hmm.
Puis ça, ça dérange. Fait que ton gauge puis ton peut-être ta
c'est
rigidité là-dedans, je te la laisse.
C'est un excellent point.
Je te la laisse, Jeff, parce que je peux comprendre qu'il y en a qui en ont abusé.
Mm-hmm. Ouais, tes voitures, on dit justement par texto, hey, oubliez pas, Johnny Depp a payé cher des fausses accusations. En effet, c'est vrai que le tribunal public, c'est pas toujours bon.
Ça, c'est un couple complètement toxique. Là.
Ouais, c'est ça, un autre texto. J'ai arrêté d'écouter Noir Désir depuis que le chanteur Bertrand Chantal a tué sa femme. T'sais, d'autres gens qui disent, ah non, moi, Michael Jackson, j'irai pas voir le film. On ramène Dominique Laroche aussi, un cas ici à Québec.
Ouais,
on l'a admiré, Dominique Laroche.
Ouh.
On l'admire pas mal moins aujourd'hui.
C'est une des causes qui m'a le plus choquée, moi.
T'as raison.
L'adulation là, de sa gang, qui donne encore de l'argent. Le gars, il s'est sauvé. J'en ai fait des jokes. J'avais l'alerte Mukenzi en nom de Jeff quand on avait des nouvelles. Puis je suis encore abonnée à sa page Facebook parce que je trouve que c'est un des bons cas d'adulation, de lavage de cerveau, de « je donne même mon argent, je le crois, les propres...
»
Le propre entourage de cette jeune fille-là, il a été reconnu coupable.
En effet.
Puis il attendait un autre procès.
Ah,
puis s'est sauvé.
Ah, ça n'a pas de sens.
Qu'est-ce qu'il fait, là, lui, là, où il est rendu?
En sabot.
Un individu sans scrupules, sans...
Ouais.
Ah! C'est quand je te parle de choses qu'il vient de saisir, là.
Non, t'as
raison. Moi, il est dans mon top 5, là.
T'as raison. Des gens qui disent « Hey, moi, je suis pas pour la cancel culture, mais je respecte votre choix. » Une autre personne qui dit souvent « Ben, t'es même à bas âge chez les victimes qui vivent le plus avec les... avec les civistes, t'sais, les agresseurs, une petite peine, ils s'en sortent. William...
Ça, c'est pas drôle. Là.
Non, c'est ça. Donc, vraiment... c'est vrai. Un auditeur qui nous rappelle aussi que Dave Hilton est demeuré populaire malgré tout, puis ça a été prouvé qu'il avait agressé ses propres filles. On va-tu une coupe de manchette, mon joueur d'économie, Gabriel?
Je suis vraiment désolé.
Voilà, c'est parfait.
On nous signale sur le boulevard...
On était passionnés!
On nous signale sur le boulevard Sainte-Anne à Château-Richer un accident. Si vous avez l'information, je n'ai pas ça encore, moi, dans mes infos. 418-971-1021. C'est pas plus jojo, Jeff, dans l'actualité, mais quelque chose qui est ressorti dans les dernières minutes, c'est le cas de l'homme qui a frappé les enfants du côté de Beauport. Là, il y a eu un accident. Puis finalement, les voitures sont ramassées sur le trottoir. Il s'appelle Daniel Robitaille. On a parlé pas mal cette semaine, mais il est accusé après avoir happé deux enfants. Et là, ce qu'on amène, c'est sur le plancher là, des problèmes de morphine et de cocaïne. Notamment, il y a la libération d'office là, de sa dernière peine de pénitencier qui a été révoquée en raison de ses problèmes de consommation. Mais ça s'ajoute, puis c'est sous la plume de Pierre-Paul Biron dans le Journal de Québec là, qui suit la cause justement au Palais de justice de Québec. Donc, c'est des choses de plus qui s'ajoutent dans le dossier. Arrêté parce que c'est ça, il a happé un enfant de 7 ans puis un autre de 10 ans lundi sur le boulevard des Chutes près de la rue Francheville. Il est détenu depuis. On dit qu'il a peine à se tenir debout, 67 ans. Là, il se tient ses murs dans la vidéo-comparution. Son état, là, c'est des tremblements parce qu'il n'a pas sa morphine. On ne peut pas dire si, lorsqu'il était au volant, il y avait cette consommation-là à l'intérieur de lui de cocaïne ou de morphine, mais on le connaît comme étant problématique là, depuis 2023-2024. Des mots tabous pour parler du dossier santé numérique. On a fait un briefing avec les employés de la santé pour dire, là, en passant, on met ça là, en projet pilote dès demain. Puis s'il y a quoi que ce soit, vous n'avez pas le droit de dire certaines phrases, comme on a des problèmes techniques, okay. Le système est en panne, ne vous inquiétez pas, ça va bien aller, ça vous rappelle-tu quelque
chose? Ça va bien aller?
Ouais. C'est des mots qui sont à l'index, il y a vraiment une genre de
liste. On a-tu le droit de dessiner un arc-en-ciel ou ça aussi, ils l'ont banni?
Ouais, je pense que là, Jeff ne va pas jouer là, dans ces problèmes
je
de société.
Je vais trop loin, je m'excuse.
Mais les travailleurs de la santé ne peuvent pas interagir avec les usagers du réseau en faisant un commentaire qui met en cause le système ou qui remet en cause le système. Donc, il va falloir rester professionnel, encourager, pas mettre de suppositions sur les causes de retard avec l'implantation du système. Les délais précis, on n'en donne pas, on ne connaît pas ça. Il faut être le plus positif possible. C'est ce qu'on demande au personnel de la santé. Donc,
soyez les cheerleaders.
Ouais, pas vraiment de transparence auprès des usagers, mais malheureusement, c'est sorti dans les nouvelles.
Ce conseil pour le gouvernement, là, c'est dans gestion de changement, c'est pas bon.
C'est jamais bon.
De dire, ben non, voyons, tu vas vivre un problème, mais non, dis pas que ça arrive.
Dis-le pas avec les usagers, j'ose croire qu'ils peuvent se le dire entre eux, par exemple, ouais, parce qu'il va falloir avoir des comptes rendus puis qu'on améliore le
tout. Exactement. En passant, j'ai fait des demandes d'entrevue pour la gang du gouvernement pour lundi, puis on m'a tout dit non. Ça, je suis déçu.
Ah, c'est de la transparence. Peut-être qu'ils trouvent ça trop tôt.
Peut-être.
Puisqu'on l'implante
demain. Mais j'espère qu'ils vont nous parler à Boulevard 101 durant la semaine. Ça prend de la transparence.
Oui, là, ça, on a besoin, par exemple, si on veut bien accompagner et bien faire les choses. Et je termine avec une annonce importante. C'est Québec, donc le gouvernement de la CAQ, Christine Fréchette, qui a annoncé 1 million d'heures supplémentaires dans le soutien à domicile. On a annoncé tout ça ce matin. C'est fait par la première ministre. C'est une promesse qu'elle avait faite pendant sa course à la chefferie de la CAQ. Donc, elle en a fait l'annonce et elle était, bien sûr, avec Sonia Bélanger, ministre de la Santé responsable des aînés. On veut améliorer la qualité de vie des Québécois, puis on veut le plus possible qu'ils restent à la maison. Hein. Donc, ajout d'heures qui va permettre de réduire la pression sur le système de santé.
Jusqu'à 14h. On en
boulevard. 102-1.
Bon, on est rendu à aller le voir. On l'a assez fait patienter, Pascal Cévin, avec nos histoires de Patrick Bruel, puis de Ryan Stein, puis de Michael Jackson.
Puis du DSM. Quelqu'un nous dit c'est la technique. Patrick Huard, tu fermes ta gueule.
Je savais pas que le gouvernement était bon humour.
Mais non, ça, c'est notre auditeur.
Je le sais. Il devrait s'inspirer de notre auditeur. Gabriel Giguère est avec nous. Pour sa chronique économique, il est analyste politique senior à l'Institut économique de Montréal. Gab, comment vas-tu?
Ça va bien, j'ai beaucoup appris dans les dernières minutes.
Ah, oh, merci.
Appris sur quoi?
Merci. Ouais, qu'est-ce?
Ah, sur le DSN, sur M. Bruel également, tristement, devrais-je dire.
Ouais, exactement, très tristement, il n'y a pas de doute là-dessus. Hey Gab, je commence avec ça parce que là, Daniel Smith a rencontré Mark Carney ce matin. On parle d'un référendum en octobre pour la souveraineté de l'Alberta. Si t'es Mark Carney ce matin, t'as plus peur de la souveraineté du Québec ou de l'Alberta?
Hey, je dirais que le taux d'appui semble environ dans les mêmes eaux. Hein. On gravite autour de 30% au Québec ou au Canada. Puis je pense que Mark Carney, il comprend que c'est des raisons vastement différentes. En Alberta, on parle beaucoup de la question économique, le secteur gazier-pétrolier, on l'a vu dans les dernières années au fédéral, là, comment on a mis en place de la réglementation qui est venue freiner le déploiement. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris pas plus tard qu'hier matin? Ben, c'est que Mark Carney a décidé, et on verra si ça va de l'avant, mais de réformer le cadre réglementaire pour rendre plus rapide, en fait, le déploiement des infrastructures énergétiques pour permettre de diversifier les exportations ou sinon simplement d'augmenter les exportations des hydrocarbures en Alberta. Donc, concrètement, de venir adresser des éléments précis qui sont demandés par les Albertains, notamment le groupe séparatiste, plutôt souverainiste, je devrais dire. Donc, ça va être à voir, mais je pense qu'il essaie de prendre la mesure de la question en ce moment en proposant des nouvelles politiques publiques.
Bien, je pense que c'est intéressant, pareil, la question de Jeff là-dedans, parce que au niveau économique, là, si le Québec se dissocie du Canada ou l'Alberta, y en a-tu un ou un autre qui coûterait plus cher et qui ferait plus mal au pays?
Ben, c'est une bonne question parce que le Québec, on le sait, là, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards pour le Canada, ne serait-ce qu'en impôts. Donc, c'est sûr que ça ferait mal. Là. Je veux dire, quand on regarde, là, c'est un habitant sur cinq, même un petit peu plus qu'un habitant sur cinq, le Québec. Donc, c'est un gros morceau là, du pays. Il faut le comprendre, le Québec. L'Alberta aussi, on est en croissance démographique. Donc, ça, c'est important. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle en matière de qualité de vie, ou plutôt de niveau de vie, je devrais dire, plus que de qualité de vie, l'Alberta est vastement supérieure au Québec. Et c'est pas pour rien qu'à la fin, quand le gouvernement du Canada fait les comptes à travers la question de la péréquation, mais c'est quand même le Québec là, qui va aller chercher de l'argent, notamment de l'Alberta, parce qu'en Alberta, on vient produire des ressources. Et j'irais même plus loin, quand on regarde les exportations canadiennes, le gaz et le pétrole albertain, quand on prend ça là, dans l'agrégat, là, c'est environ 1 $ d'exportation sur 4. C'est énorme, le Québec n'a pas ça.
Mais notre prétention de croire était là que l'Alberta pourrait faire souffrir encore plus le pays.
Ça pourrait faire très certainement mal, mais encore une fois, devant cette possibilité-là, je pense que ça explique l'approche de Mark Carney de dire « C'est quoi le problème avec l'Alberta? La question économique, notamment du gaz et du pétrole, on va déposer un projet de loi. » Mais vous savez, le diable est dans les détails. On peut en déposer des projets de loi. Sera-t-il adopté? Sera-t-il à la mesure, à la hauteur des attentes des Albertains? Je pense que l'avenir nous le dira.
Gabriel Giguère, je regarde les statistiques en emploi et là, je me dis, la crise tarifaire vient de nous frapper en plein visage en 2026. 43 000 emplois perdus en avril au Québec, c'est la deuxième baisse mensuelle significative. On parle de 91 000 pertes d'emplois, donc moins 1,9% de janvier à avril. Et dans notre métropole à Montréal, c'est 56 000 emplois qui ont été perdus, donc moins 2,3% du côté des emplois. Ça va vraiment pas bien, là, Gab. Est-ce que c'est des chiffres qui nous amènent vers une récession?
Ben, c'est des chiffres très certainement qui doivent allumer le voyant rouge. C'est-à-dire qu'on voit une baisse d'emploi en construction, une baisse d'emploi en fabrication, une baisse d'emploi même dans le secteur financier. Donc, c'est vraiment le secteur privé qui est lourdement frappé. Puis, on peut pas tant surprendre parce que quand on analyse notamment l'impact des tarifs douaniers, il est beaucoup plus élevé cette année parce qu'on est venu modifier l'étendue à travers lequel le nombre de produits est affecté. Avant, c'était environ une moyenne de 5 %. On est monté aux alentours de 9%. On a récemment vu ça et ça, c'est peut-être juste 4 points de pourcentage de plus, mais sur un volume de dizaines et de dizaines de milliards de dollars d'exportation vers les États-Unis du Québec, il y a un impact parce que les entreprises québécoises, en ayant un tarif douanier plus élevé ou simplement un tarif douanier, bien, ça vient réduire le caractère concurrentiel par rapport aux entreprises américaines, même si, j'ai envie de vous dire, même si c'est les États-Unis qui payent plus cher, hein, parce que, bien, évidemment, si il y a une taxe qui doit être payée par les entreprises américaines pour une importation, ça va payer plus cher, mais ça fait en sorte qu'au final, si on décide d'aller de l'avant avec une entreprise américaine plutôt que québécoise, parce que celle qui est américaine n'a pas de tarif douanier, ben, vous allez quand même payer plus cher, parce que si c'était 100 $ avec l'entreprise américaine, avec québécoise, mais qu'avec le tarif douanier, c'est rendu 110 $ pour un produit, puis que vous allez aux États-Unis à 105, c'est quand même 5 $ de plus que le consommateur américain va devoir payer. Donc, ultimement, ça fait mal aux entreprises québécoises, ça fait mal aux consommateurs américains, puis on y gagne pas. Malheureusement, c'est la trajectoire, elle est très claire, tu l'as dit, moins 91 000 emplois depuis le début de l'année, c'est alarmant, et là, ce que je veux dire, parce que c'est fort important, ce que ça vient mettre en lumière, c'est quoi? C'est l'importance d'avoir un bon accord commercial en 2026 avec les États-Unis. On parle beaucoup de l'Europe, c'est important l'Europe. C'est pas juste le fun pour aller voyager en Italie à Rome, même si c'est très beau, là. C'est un partenaire commercial, mais soyons clairs. Les États-Unis sont nos voisins. Les États-Unis vont rester notre premier partenaire commercial. Dans ce contexte-là, on doit se concentrer à la fois pour diversifier nos exportations, mais avoir un excellent accord commercial si on veut s'assurer d'avoir un dynamisme économique au Québec.
Tu me vends les mots de la bouche, j'allais te dire, maintenant qu'on a ce voyant rouge-là, il faut vraiment que Mark Carney, qui joue la stratégie de la patience, là, se mette à l'action avec les États-Unis, parce que sinon, ça va être un recul pratiquement dramatique en 2026 au niveau de l'emploi, autant au Québec qu'au Canada.
Absolument. Puis oui, on le dit, le Canada est le plus gros partenaire commercial des États-Unis, mais c'est l'échelle de dépendance entre le Canada, du Canada vers les États-Unis et les États-Unis vers le Canada. Et on est sur deux planètes différentes, là. Évidemment, qui ont énormément besoin de notre énergie, que ce soit l'électricité, surtout le pétrole et le gaz albertain. Encore une fois, on y revient, mais c'est très important pour les raffineries du Midwest américain. Mais une chose est sûre, il faut que le Canada, puis c'est plate à dire parce qu'on aime ça avoir une belle posture, mais C'est les États-Unis le géant économique en Amérique du Nord. Puis les États-Unis sont notre premier partenaire commercial. Alors on doit et on va en faire des concessions. Je pense qu'il faut être proactif. La gestion de l'offre, c'est une concession qui est bon pour les consommateurs québécois, bon pour les consommateurs canadiens, bon pour la renégociation de l'accord libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Et donc c'est une concession que le gouvernement fédéral doit intégrer dans sa réflexion et pas faire de posture morale dans l'espace public canadien pour nous expliquer qu'on va tout défendre. Parce que si on défend tout, pas sûr que l'accord de libre-échange va être si intéressant. Puis, in fine, même si c'est une posture, quelle sera réellement la conséquence? Pas sûr qu'on veut le savoir collectivement si on a un mauvais accord.
Gabriel Giguère, lorsque Zoran Mamdani a été élu à New York comme maire de la ville, il a parlé de faire des épiceries publiques. Lorsqu'il a été élu, on a eu Ruba Gazal en entrevue à l'émission On en jase. Elle a dit « Nous, on va s'inspirer de Mamdani parce qu'on est sûr qu'on va réussir à avoir un courant populaire comme lui. » Mais là, depuis 2 jours, j'entends personne me dire que c'est une bonne idée, les épiceries publiques, que ce soit au nord ou au sud de la frontière. Est-ce qu'ils ont raison?
Faut pas se surprendre, JF, il y a personne qui veut perdre de l'argent en tant que contribuable, donc on peut pas soutenir ce type d'approche-là si on veut pas perdre d'argent en tant que contribuable. Ce qu'on voit, là, puis c'est parce qu'il faut juste revenir à la base. Le public n'a pas les mêmes incitations économiques que le privé. Si vous êtes un privé, comme un Loblaw, un IGA, peu importe, un métro, un maxi, vous devez offrir le meilleur produit au moindre coût, à tout le moins que vous avez segmenté le marché, parce qu'évidemment, si vous allez au métro, ça ne sera pas le même prix qu'au maxi, mais vous voulez offrir le produit qui convient. Mais si vous n'êtes pas capable, si IGA, tout d'un coup, vend trop cher ou vend pas des produits de qualité, qu'est-ce qui va se passer? Pas compliqué, je vais aller au métro, je vais aller au Super C. Bref, vous devez offrir un bon produit de bonne qualité à un prix convenable, sinon, vous allez disparaître du jeu. L'État n'a pas cette pression-là. Si l'État offre un produit qui n'intéresse pas les gens, parce qu'on maintenant on va peut-être tout devoir manger des Froot Loops, puis de Frosted Flakes, c'est fini, il va y avoir moins de céréales, c'est bien dommage, j'espère que vos petits aiment ça, bien, ça fait en sorte que même si vous n'allez pas à l'épicerie d'État puis on en jette bien gros des boîtes de Froot Loops, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vous en tant que consommateur qui allez payer moins cher, c'est vous en tant que contribuable qui allez payer pas mal plus cher parce qu'il va falloir subventionner davantage comme on a vu ailleurs dans le monde.
Donc, autrement dit, ces fameuses marges de profit-là que les détaillants se prennent, et encore là, corrige-moi si je me trompe, mais dans l'épicerie, c'est à peu près un 3% qui se prennent. Bien, c'est 3% qu'on va redistribuer à l'ensemble des citoyens du Québec.
Ça, c'est intéressant. 2 commentaires là-dessus. C'est souvent ce qu'on entend. Ah, oh, 3%, l'État va pouvoir faire disparaître ça. Non, non, l'État fera pas disparaître ça. L'État sera pas capable de le faire parce qu'on n'a pas les mêmes incitations. Si le consommateur n'est pas présent, le contribuable va toujours l'être. Et avec l'État derrière, vous allez payer. Ça, c'est pas une question de choix, c'est une question d'obligation. Donc, quand on n'a pas cette même approche-là, il faut dire également que c'est de la logistique qui est extrêmement complexe et que l'État n'a absolument pas l'expertise pour faire ça.
C'est
donc,
clair.
Dans un meilleur des mondes, c'est ça qui arriverait. Puis je vais revenir sur la question de la marge parce que c'est incontournable. 3%. Quand on lit le rapport de 2024 du Bureau de la concurrence sur les épiceries au Canada, qu'est-ce qu'on nous dit du fait qu'il n'y a pas assez de concurrence internationale au Canada? Il n'y a pas assez de chaînes. Et la raison, il y a plusieurs raisons, notamment la réglementation, mais la grande raison, c'est que les marges de profit sont trop basses et on ne sera pas capable de vendre des produits sous le prix des concurrents canadiens. Autrement dit, il faut arrêter de parler de marge trop élevée.
Ben oui.
C'est le contraire. Donc voilà.
Merci, Gabriel Giguère. C'est toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un bon week-end, un excellent match de hockey ce soir, un bon match de hockey dimanche. Et parlant de hockey, Pascal, ben, ça va être Alex Laramé qui va venir nous jaser de ça. C'est quoi ta prédiction pour le match de ce soir, Gabriel Giguère?
Ben, mon cœur me dit le Canadien, puis il va sûrement convaincre ma tête que c'est le Canadien. Fait que la prochaine fois qu'on se reparle, ça va être 2-1 Canadien dans la série, peut-être 3-1.
Il est confiant. Gab Giguère, toujours un bonheur. Tu nous vulgarises l'économie de façon impeccable.
Merci beaucoup. Salut.
Salut, Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Eh oui. T'sais, c'est sûr, on va parler politique avec Lambert Drainville tantôt, puis de carte électorale avec Youri Chassin. Mais le monde, il va nous entendre parler de hockey présentement.
Ouais, le Québec est hockey.
Le Québec est hockey. Deuxième match de la série ce soir, à Buffalo. Et en gros, hein, Pascal?
Tantôt, là, je me suis rendu compte que vous m'avez rendu superstitieuse dans quelque chose que je ne suis pas nécessairement.
Vas-y donc.
Puis j'étais comme, hey Max, j'ai dit, ah non, t'as-tu fait jouer ta toune aujourd'hui? Il disait, ah non, comme convenu, c'était assez, puis tout ça. Il dit, on a perdu avec la toune mercredi, fait que ça a donné le go au boss de dire, c'est assez, on a entendu la toune. Et moi, j'étais pas bien, je me disais, comme dans le temps que Ginette Renault faisait l'hymne national,
oui.
Là, les moments où elle a pas été là, j'aimais pas ça.
En effet.
Mais je suis pas ça. Fait que là, tout le monde qui a une tradition ce soir, s'il vous plaît, faites-la.
Ouais.
On a besoin de l'énergie de tous.
C'est ça. On parlait avec Alex Laramie après la pause.
Pour que vous disiez encore que ça va être Buffalo qui va gagner.
De ce match de ce soir. Il y a un match aussi dimanche. Les autres séries aussi vont continuer à se disputer cette fin de semaine. Ça va être très intéressant. C'est ce qu'on va parler avec Alex Laramie. Juste avant, là, je veux te lire un courriel de Kim, un auditeur assidu à Boulevard 101. Aussitôt que Carney va faire des concessions avec les États-Unis, le peuple canadien va le ramasser en disant qu'il ne se tient pas debout. Contre le gros épais, en parlant de Donald Trump. Carney est dans une position de merde. Hey, je suis d'accord. Il est tellement perdant. Il ne pourra jamais faire plier Trump, surtout. Fait qu'il va faire des concessions. Puis ça, des concessions, là, c'est le principe d'une négociation.
Oui, mais avec Trump, c'est comme la fameuse situation qui rapporte. Mettons, tu es en couple. Mettons, tu es en couple ensemble.
Ouais.
OK, moi, je veux un chat, t'en veux pas.
Oui.
J'en veux un, t'en veux pas. Fait qu'on va faire une concession, on va en avoir un. C'est ça, tu sais,
c'est vraiment une caricature.
Mais avec Trump, c'est ça qui se passe. Le gars fait pas vraiment de concessions, puis on le voit avec l'Iran. Il commence à perdre la force dans ses négociations, puis dans le fait de dire, « Hey, je vous bombarde si jamais vous écoutez pas ce que je dis, nanana. » Il commence à prendre un peu moins au sérieux dans le monde Donald Trump, mais...
Ouais. Ça fait 70 jours qu'il répète la même chose.
Ouais, mais tu sais, il respecte pas toujours sa partie de l'entente. Dans une entente, t'es supposé.
T'as entièrement raison. Alex Laramie qui vient nous parler de hockey par la suite. Et Lambert Drainville, on va dresser un bilan de la première semaine de Christine Fréchette à l'Assemblée nationale. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est l'émission d'En Jase. Émission d'En Jase de l'heure du midi. Votre émission d'actualité. On vient de traiter d'actualité économique. Ouf. J'ai des craintes, Pascal. Je crois que ça ira pas bien en économie en 2026. Hey, on perd donc bien des emplois.
Oui, c'est difficile. Puis c'est un peu... Là-dedans, il y a des impacts de la pandémie là, qu'on a eu avec, avec le temps dans les industries. L'intelligence artificielle qui est arrivée.
Exactement.
Crise avec les tarifs américains.
Ouais.
Si on voit pas des angles morts aussi, 88-971-1021 dans votre industrie, dans votre travail, pourquoi les gens perdent leurs emplois en ce moment?
Exactement. Dites-nous ça.
Ça m'intéresse vraiment.
Ah oui, ça va être très intéressant. C'est des averses pour aujourd'hui. D'ailleurs, on en vit une à l'heure actuelle. C'est 12 degrés, donc 60 % de possibilité d'averses ce soir, cette nuit. Ça va être des passages nuageux. Bon, tant mieux. Mon gars joue au flag football, puis je vais aller le voir. Puis c'est 3 heures dehors, fait que ça me tente pas d'être à la pluie.
Non, ça va faire du bien. Ouais.
16 degrés, alternance de soleil et nuages pour demain. 15 degrés pour dimanche avec 60 % de possibilité d'averse. Avant qu'on parle de hockey, Pascal, et par la suite qu'on parle avec Lambert Drainville qui va nous faire une analyse de cette première semaine de Christine Fréchette à l'Assemblée nationale. Qui sont les gagnants? Qui sont les perdants? Ah, d'après moi, d'un perdant, là, d'après moi, il va avoir lui.
Well, I can say that in both official languages, maybe in Spanish if you want to.
Je peux vous le dire dans les deux langues officielles et en espagnol aussi.
T'es tough pour Charles Milliard cette semaine. Mm. On se le cachera pas. On va parler de ça avec Lambert Drainville. Mais avant, dis-nous donc ce qu'on a à suivre dans notre actualité en ce vendredi 8 mai.
Donald Trump est en point de presse en ce moment du côté de des États-Unis, de la Maison-Blanche. Je vais être capable de vous dire ce qui se passe dans quelques minutes. Mais sachez qu'on parle assurément là, du Moyen-Orient et de la guerre et de l'impact avec l'Iran et l'international à ce niveau-là. Dans ce qui nous ramène à notre santé, Québec a annoncé 1 million d'heures supplémentaires pour le soutien à domicile. C'est une mesure que Christine Fréchette avait beaucoup défendue pendant sa course au leadership de la CAQ. C'est une promesse qu'elle avait faite, soit d'ajouter des heures supplémentaires de travail en soutien à domicile pour nos personnes aînées. Puis elle a fait l'annonce ce matin en conférence de presse. Elle était bien sûr avec Sonia Bélanger, ministre de la Santé et responsable des aînés. On veut améliorer la qualité de vie des Québécois qui veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Puis à main levée, j'ai l'impression que c'est la majorité. Alors on veut réduire la pression sur le système de santé de cette manière-là aussi. C'est un ajout de 22 millions à l'offre déjà disponible. On a rappelé qu'il y a 2 millions de Québécois aujourd'hui qui ont 65 ans et plus qui s'inscrivent dans une volonté de se préparer au vieillissement de la population et, entre autres, dans l'intérêt pour plusieurs d'avoir ce soutien à domicile-là. C'est passé de 20 000 personnes à 13 000 personnes en attente d'un premier service. Donc, on n'est pas capable d'aller très, très vite dans la liste. Moi, ce que j'analyse, là, c'est que ça ne va pas très, très vite. Alors, on essaie de donner un petit coup de main de plus. Il se passe des choses aussi dans le DSN, le dossier santé numérique. Ça fait beaucoup jaser. Aujourd'hui, ce qu'on apprenait dans les médias, c'est qu'il y a des mots tabous pour parler du dossier santé numérique qui ont été listés par Santé Québec et demandés aux employés dans leurs interactions avec les patients, avec ceux qui vont venir
Que je peux pas dire si je travaille dans le domaine de la santé.
Bon, si tu es employé du réseau de la santé, tu peux pas, en échange avec les usagers dans le cadre du déploiement de demain, avec le dossier santé numérique dans certaines régions, dire qu'on a des problèmes techniques, que le système est en panne. Ne vous inquiétez pas, tu n'as pas le droit de dire ça.
J'ai pas le droit de dire ça.
Ça va aller, c'est toutes des phrases qui sont mises à l'index et qu'a appris Radio-Canada Nouveau. Tout le monde en parlait un peu ce matin. Il y a eu des échanges sur Twitter, puis c'est Max qui les a vus, parce que Thomas Gerbin est pas mal dans le dossier, le journaliste à la presse depuis
Puis là, il y a une petite chicane entre Santé Québec puis Thomas Gerbin.
Mais c'est que le projet du dossier santé numérique qui a été lancé dans trois régions, là, c'est 100 millions de $ par année pour l'exploitation. C'est un montant qui est dévoilé selon le journaliste en catimini et qui a été fait hier, en fait. Et ça s'ajoute au coût de développement de 402 millions de $. Il l'a mis sur son Twitter, sur son X, devrais-je dire, et Santé Québec a répondu, donc quelqu'un aux communications. Déposer quelque chose sur notre site web, c'est pas agir en catimini. Vous en avez d'ailleurs fait un article, donner les informations juste à la population. Nous le faisons dans ce projet, comme dans toutes nos activités, là, c'est un peu ça. Tu peux comprendre, Jeff, que Thomas Gerbin a trouvé que c'était trop subtil de le mettre sur un site Internet au lieu de l'annoncer ou de le dire en discussion. À vous de juger pour la suite, mesdames et messieurs, qui êtes à l'écoute. Mais on va vouloir vos informations. Si vous avez de la famille ou quoi que ce soit, on veut toujours être informé sur ce déploiement-là ou si vous êtes dans le réseau de la santé. On a une espèce d'aura de l'espoir fait vivre puis on veut que ça se passe bien. C'est ce qu'on comprend.
Exactement. J'ai très hâte de faire de la radio lundi et puis d'avoir passé à travers cette fin de semaine-là pour voir qui a raison. Encore ce matin...
C'est peut-être trop tôt, un week-end? Je sais pas ce que t'en penses.
Ouais, c'est vrai, on pourrait attendre une petite semaine. Mais encore ce matin, une autre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, dans Marceau le matin, qui a dit « Faut y aller! C'est fini, fax! »
Ouais, il pousse, effectivement. Accusé d'avoir happé deux enfants à Beauport lundi dernier, je vous parle de Daniel Robitaille. Vous le savez, c'est un homme qui avait des problèmes de consommation, reconnu pour ça du moins, et on parle de morphine et de cocaïne. Il a vu sa libération d'office de sa dernière peine de pénitencier lui être révoquée en raison de ses problèmes de consommation. C'est super triste comme histoire, là. Ces deux enfants, 7-10 ans, qui ont été happés en fin d'après-midi. Il arrivait de l'école, il marchait vers leur maison sur le boulevard des Chutes.
Est-ce qu'on a des nouvelles de celui qui était vraiment blessé? Il était blessé gravement?
Il était blessé gravement, mais il était stable de ce qu'on comprenait.
Parfait.
Moi, j'ai rien d'autre, là, donc...
Non, c'est ça, moi aussi, c'est les dernières nouvelles que j'avais.
Oui, on indique encore que l'état du plus jeune des deux, c'est toujours incertain, mais on parle pas de quelque chose de plus, là, en ce moment. Je trouve ça épouvantable, pour
vraiment?
La famille. J'ai vraiment... Tu sais, il y a des nouvelles qui sont difficiles, là. Celle-là, elle est difficile. Daniel Robitaille va revenir lundi devant le tribunal et on va se positionner pour la tenue de son enquête sur remise en liberté. C'est un dossier qu'on va suivre assurément, Jean-François. Le député indépendant Youri Chassin est venu jouer dans les cartes et les désirs du gouvernement et des partis d'opposition parce qu'on voulait adopter sans débat projet de loi 3. Ça, c'était pour le redécoupage de la carte électorale. On en a beaucoup parlé hier. Puis l'élu de Saint-Jérôme, il a bloqué l'adoption parce qu'il dit il faut que quelqu'un rappelle au gouvernement une vérité fondamentale, il n'est pas au-dessus des lois. Puis lui, il déplore que la carte électorale qui a été proposée a été déterminée par les partis présents à l'Assemblée nationale sans être celle qui a été proposée par la Commission de représentation électorale. Alors pour lui, c'est pas légitime. On trace pas la carte des 125 circonscriptions comme ça. Et il veut pas que ce soit changé. Alors, on entendra parler tantôt parce qu'on va lui parler à l'émission.
Exactement, aux alentours de 13h30, Youri Chassin avec nous.
Et je termine avec une nouvelle qui est sortie hier, mais je pense que c'est important d'en parler. C'est le dossier de l'ex-skieur acrobatique, ah, oui. Dominique Laroche. Il était de retour devant la cour pour des représentations sur la peine hier et la victime dans le dossier a témoigné au Palais de justice de Québec. On parle de conséquences psychologiques importantes liées aux agressions sexuelles dont elle a été victime pendant son adolescence. La première agression avait juste 13 ans. Hein. C'est ça qui est démontré au Palais de justice. Et l'identité est protégée de la jeune femme par une ordonnance du tribunal. On décrit l'impact durable des événements sur sa vie. Elle a expliqué avoir longtemps vécu avec un profond sentiment de honte et de détresse.
Oui, puis c'est une histoire affreuse. Dominique Laroche qui a été reconnu coupable, il est présentement en prison et il demande un nouveau procès. Donc, ça fait 5 ans qu'il étire les procédures pour cette jeune femme. Ça n'a aucun bon sens. Au moins, ce qui me rassure dans ce dossier-là, Pascal, Marie-Claude Gilbert, qui est la juge, qui est très tranchante normalement avec les prédateurs sexuels comme Dominique Laroche et le procureur de la Couronne aussi, Maître Bérubé, si je me souviens bien de son nom, qui est le procureur de la Couronne, même principe, il en a fait reconnaître coupable énormément. Alors, je sais que ce dossier-là est entre bonnes mains.
Le midi,
on va se rappeler un petit moment plus difficile qui est arrivé mercredi soir.
Lane Hutson, et il a été clair. Il a dit, on doit être vigilant. Là, Hutson qui perd l'équilibre sur son ombre. La porte de côté, les tirs du Josh Down. Oh, et Hutson s'en veut. Il est vraiment pas content.
Alex Laramé est avec nous, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Alex, comment vas-tu?
En pleine forme pour ce soir de match, Jeff.
Est-ce que le Canadien va être en meilleure forme ou le train? La locomotive, les gros et les grands sables vont encore prendre toute la place sur la patinoire?
Non, moi, je pense qu'on va avoir une meilleure sortie là, du Canadien. Je pense qu'on a été surpris là, par surtout la vitesse. Là, c'était visible à l'écran là, dans mon salon. Je veux dire, dès les premières minutes de jeu, on voyait à quel point Buffalo est une équipe vraiment plus rapide que Lightning. Puis je pense que c'est Saint-Louis aussi qui le mentionnait. Tu as beau en parler dans des meetings, il faut que tu le vives sur la glace un peu pour le comprendre. Là, visiblement, on a été capable de mesurer là, l'ampleur justement de la grosseur puis de la vitesse des sabres. Puis le début de match va être super important. T'sais, on l'a vu dans le dernier match, justement, tu t'as fait jouer l'extrait, là, l'erreur de Lane Hutson qui tombe. Si on est capable de sortir puis de sortir d'une première période avec l'avance, un 1-0 ou même un 0-0, je pense que ça va changer grandement l'allure du match puis ça va aider à ralentir justement les gros attaquants là, du côté des Sabres.
On fait quoi avec Cole Caulfield? Il en a marqué 51 dans la saison. Tout le monde l'a adulé. Il a fini le deuxième buteur de la Ligue nationale au grand complet. Et là, dans les séries en 8 matchs, il y a un petit but. Marqué en avantage numérique, on le voit pas du tout à 5 contre 5. Il a passé l'entièreté de la saison avec Nick Suzuki. Tu prends-tu le risque de les séparer ce soir?
Ben moi, j'aurais aimé qu'on remanie les trios, là, mais selon ce qu'on a vu à l'entraînement, là, il n'y aura pas vraiment de changement pour ce soir. Arber, Jacky et Veleno seraient encore dans l'alignement, puis un Struble Gallagher serait laissé de côté. Moi, j'aurais aimé justement qu'on essaie peut-être une autre combinaison, voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais Caulfield a fait face à la musique, hein, il a rencontré les journalistes, puis il a dit que c'était à lui là, de trouver des solutions, qu'il n'y avait pas d'excuses. Donc, peut-être de lancer plus souvent au filet, mais il l'a fait aussi dans certains matchs, puis ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, c'est vraiment à lui de trouver la solution. Il a marqué 51 buts cette saison, donc je ne peux pas croire qu'il n'est pas capable d'en marquer d'autres en série. Là, mais il va falloir aller devant le filet, ça va passer par là, il va falloir aller dans le trafic, puis être prêt à prendre des mises en échec, parce que si on reste en périphérie, là, ça ne fonctionnera pas pour Caulfield.
En effet, qui, à part Cole Caulfield, tu veux voir connaître un meilleur match du côté du Canadien de Montréal? On a beaucoup vanté un gars comme Zachary Bolduc. Je l'ai trouvé absent dans le premier match contre les Sabres de Buffalo. Je pense également qu'il va falloir qu'Ivan Demidov en marque un à un moment donné. T'es, qui, toi, te vient en tête là, par rapport à un joueur qui va devoir produire davantage?
Ben, moi, c'est vraiment Demidov, là. Je pense que c'est une des pièces maîtresses du Canadien. Toujours aucun but en carrière, en série. Ça reste un jeune joueur, là. Donc, on peut lui donner peut-être un petit mulligan là-dessus, mais à un moment donné, il va falloir qu'il marque des buts, qu'il produise. On l'a vu à certains matchs là, contre Tampa Bay, que d'ailleurs, je pense, dans le match numéro 6, il y a eu beaucoup de chance en troisième période. Les deux arrêts de Vasilevski, là, il était vraiment prêt de marquer un but. Ben, c'est ça qu'on veut voir. On veut voir un Demidov qui prend la rondelle, qui n'a pas peur de justement de prendre prendre l'ascendant sur son trio parce qu'il joue avec Evans Pignouk. Hein, fait que ça va être à lui de générer des trucs. Là, je veux dire, tout mon respect à Evans, là, mais offensivement, c'est quand même assez limité. Hey, fait que, ouais, moi, je veux voir une grosse période de demi-heure.
Tu m'amènes sur un terrain intéressant parce que moi, je me dis, coudonc, il me semble qu'un marqueur de 20 buts comme Oliver Kapanen, on vient de l'oublier un petit peu trop rapidement. Canadien marque pas de but, produit pas. Je sais qu'il y a eu une fin de saison difficile, un début de série qu'on ne t'aime pas bien. Mais à un moment donné, si tu veux gagner des games, faut-tu score des buts?
Ouais, ben je pense que de ramener Kapanen dans l'alignement, je pense que c'est quelque chose qu'on va peut-être... On va peut-être réfléchir si jamais on avait une autre défaite du Canadien ce soir. Visiblement, Saint-Louis veut donner un peu d'action à Veleno, là, qui va encore jouer ce soir. Puis, il y a eu une game honnête là, dans le premier match. Ça, là. Mais...
Parce que tu sais, je l'aime bien, là, le petit Jake Evans, les gangs, c'est mis au jeu, là, puis il est bien smart, puis il est bien gentil, puis il a le cœur à l'ouvrage. Là, mais c'est parce qu'à un moment donné, il n'en score pas de but, Jake.
Ouais, puis tu sais, moi, je pense que Kapanen, son style de jeu, fitterait peut-être un mieux là, avec le genre rapide. De hockey qui veut jouer les. Ouais, c'est ça, des sortes de Buffalo, donc il y aurait peut-être manière de l'amener. T'sais, le problème, c'est que si on le fait juste à la deuxième, ça l'expose quand même à beaucoup de temps de jeu. Là, il y a peut-être certains match-ups. Ça reste que Kapanen, Demidov, c'est deux joueurs recrues là, sur le même trio. Donc, c'est peut-être quelque chose qui agace un petit peu Martin Saint-Louis. Mais je suis d'accord avec toi. De donner une chance à Kapanen, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait explorer dans une série qui, visiblement, va être plus offensive.
Tu t'attends à quoi cette fin de semaine? Moi, j'ai dit un massacre des Sabres de Buffalo 6-1 ce soir. Mais dimanche au Centre Bell, devant ses partisans, le Canadien va retrouver son lustre et va l'emporter 3-1. Toi, tu y vas avec quoi comme prédiction?
Non, moi, j'ai décidé de ne plus être un traître. Là. On me l'a reproché. Là. Ce soir, ça va être une victoire du Canadien. 4-3 ce soir. Ça va être une bonne partie de hockey. Puis je pense que dimanche, premier match à domicile. Moi, je vois pas comment le Canadien peut perdre ça. Moi, je vois une grosse victoire de 5-2 dimanche. Deux victoires de suite pour le Canadien.
Alex Laramé n'est plus un traître. Pascal CV s'en porte mieux.
J'espère que c'est pas toutes mes menaces par écrit là, qui ont joué, Alex. Sinon, je m'excuse. Je comprends. Là, on fait pas ça.
Vous, chers auditeurs, 418-971-1021, vous attendez à quoi de la fin de semaine du Canadien? Rapidement, Alex, hier, il y a une équipe qui était de retour à domicile, mais ça n'a pas bien fonctionné. Les Hurricanes de la Caroline qui battent les Flyers de Philadelphie 4-1. Septième victoire consécutive pour les Hurricanes en série. Et là, hier, deux buts en avantage numérique, un but en désavantage numérique en fin de deuxième période. Bref, les Canes sont bons partout présentement.
Ouais, honnêtement, c'est de loin la meilleure équipe en ce moment en série. Là, je veux dire, c'est facile à dire, ils n'ont perdu aucun match. Là.
C'est ça.
Mais c'est une équipe qui est vraiment bien balancée. Le seul point d'interrogation qu'on avait un peu, c'était devant le filet, qui allait être le numéro un. Puis là, Frederik Anderson arrive et goal comme il n'a jamais goalé en série de sa vie. Il y a eu des années plus difficiles en série avec les Maple Leafs de Toronto. Dans les dernières années, avec les Hurricanes, c'était correct sans plus. Mais là, il s'impose comme le numéro un. Puis il devient un peu l'élément manquant de ce club-là. Défensivement, on est bon en attaque. On est rapide. On presse beaucoup. Là, on l'a vu contre le Canadien. C'est une équipe qui est très forte en échec avant. On est rapide sur le porteur de la rondelle. Non, honnêtement, c'est plate à dire, mais je pense qu'ils vont éliminer les Flyers en 4.
Ah oui, série qui pourrait se terminer dès ce samedi. Ce soir et dimanche soir, les Golden Knights vont visiter les Ducks. Moi, je te prédis qu'en fin de semaine, c'est deux victoires des Ducks avec l'avantage de la patinoire. Jacob Trouba et Jackson Lacombe vont être sur Jack Eichel et Mitch Marner. Et je crois pas que Vegas a assez de profondeur pour s'en sortir.
Ben, c'est une bonne prédiction. Moi, je vais quand même être plus conservateur. Là. Je pense qu'on va split là, comme on l'a fait du côté de Vegas. Je pense que ce soir, les Ducks vont l'emporter. Puis dans le match numéro 4, Vegas va pouvoir avoir l'ascendant. Mais moi, je pense que ça va être une longue série. Là. Je pense que ça sera en 7. Deux équipes bien balancées, un petit peu plus jeunes du côté des Ducks. Puis on en parlait hier. Là. Je pense que les jeunes Ducks, comme tu dis, les Lacombe, les Carlson, Cutter Gauthier, c'est eux qui vont faire la différence dans cette série-là.
Et samedi, 21h, c'est le troisième match entre l'Avalanche et le Wild du Minnesota, si on vient de parler des Hurricanes comme inarrêtables, je vois pas comment le Wild, avec une ligne de centre aussi affaiblie, va stopper l'Avalanche samedi soir.
Ben, on s'en avait parlé en début de série. Moi, c'est pour ça que j'avais donné l'avantage du côté du Colorado parce que c'est deux super bonnes équipes. On est égal à plein de niveaux, mais la ligne de centre, c'est jour et nuit dans ces deux clubs-là. Mais je pense quand même que Minnesota va sortir fort ce soir. Ils peuvent pas échapper ce match-là. Ils peuvent pas être en retard 0-3. Fait que moi, je pense que je vois une victoire là, demain du côté du Wild. Mais malheureusement, Colorado sont trop forts. Ils vont avoir le dessus dans cette série.
Continuez à nous faire vos prédictions. 418-971-1021. Jusqu'à présent, vous êtes plusieurs à nous dire « Hey, Alex Lyon, ça tiendra pas. À soir, le Canadien remplit le filet. Pourquoi pas, tiens? » Profiter de ces beaux moments, ces deux soirées de fin de semaine où on a des matchs de hockey. Ah, que c'est le fun. Alex Laramie.
Ah ouais, on en prendrait plus souvent.
Mais on se parle lundi?
Yes, à lundi.
Yes, salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramie, chroniqueur sportif pour On en jase et également journaliste au 99.5 Montréal.
On en jase.
Quin. On va aller parler Pascal Sébin, un autre fan du Canadien. Là, c'est vrai, quand il a fait sa chronique mercredi avec nous, il n'avait pas son chandail. Puis le Canadien a perdu, puis là, il l'a pas.
Il l'a pas. Il l'a pas.
Oh, attends.
Il date un peu d'après.
Ouais, c'est ça. Il...
Là, Lambert déshabille devant nous, ouais, mais c'est pour la bonne cause.
On va continuer l'introduction. Et voilà, il arrive avec son jet de Josh Anderson.
On a failli te juger, puis dire que cette défaite était de ta faute.
Donc maintenant, on va savoir, quand Alex Laramie dit que le Canadien va gagner, Lambert Drainville a son chandail, dans la même émission dont on en jase, si le Canadien gagne, c'est gagnant. Lambert Drainville, comment ça va?
Hey, si il gagne, par contre, on va être mal pogné, moi, d'avoir traîné mon T-shirt et mon chandail du Canadien partout. Hey, Josh Anderson, t'en connais-tu un autre que moi qui a un gilet de Josh Anderson?
Eh non, j'en connais pas d'autres!
Je pense que tu le laves, par exemple, Lambert, si on continue les séries après ce soir.
Alors, remarqué! Hey, je l'avais même pas sur le dos, je l'ai pris sur le coin de la table, laisse-moi une chance.
Ben, c'est ça! Tu vas écouter le macho à soir? T'écoutes-tu ça à la maison ou tu vas dans un petit pub à Montréal?
On se fait une soirée avec des amis, un couple d'amis,
ça,
ma blonde.
C'est cool.
On écoute ça en duo ce soir.
Magnifique, magnifique. Moi, je vais écouter ça en traite sur mon cellulaire. S'il mouille pas, en train de regarder mon gars en tournoi de flag football. Ça va être ma soirée du hockey, mais bon, je risque de revenir à la maison pour la troisième période.
OK, c'est ça. Ton gars joue au flag, fait que tu vas quoi l'écouter sur ton sel? Genre?
Ouais, exactement.
Il ne regardera pas le jeu.
Bon, ben, j'allais voir mon Edou. Je prédis qu'il y a une couple de boys au flag là, qui vont avoir le cellulaire allumé. Puis quand la défensive et l'offensive changent, d'après moi, ils vont être pas mal à checker le match aussi. Là.
j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que tu ne seras pas tout seul.
Ah, maintenant, on va être dans les estrades. Puis là, on va entendre des parents faire yes. Puis on va se demander, mais qu'est-ce qui vient de se passer sur le terrain? Ah non, c'est le Canadien, qu'est-ce qu'on veut? Ça va être ça l'ambiance ce soir.
Voilà, les priorités. Hein, qu'on dit, les
exactement, ça va être l'ambiance à l'école, les sentiers. Hey, Lambert Drainville, j'aime ça parce que tu nous as dit « Hey, le vendredi, je vais faire de quoi de nouveau à soeur? » Je vais vous donner mes petites étoiles de la semaine. Mes petites étoiles en politique. Et là, ton pouce en l'air que tu donnes, c'est pour la femme qu'on va entendre à la fin de cet extrait-là.
Moi, je demande plutôt aux Québécois de faire appel à leur mémoire. Le bilan de la CAQ est déjà écrit, c'est celui de la première ministre. Est-ce qu'elle nie ce bilan qui est aussi le sien? Est-ce qu'elle est prête à prendre ses responsabilités?
La réponse de la première ministre.
Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de voir que le collègue chef du troisième groupe de l'opposition se lève aujourd'hui, alors qu'il n'a pas daigné le faire hier, quand il était question de protéger les femmes de la violence conjugale.
Hey, elle a montré de la pogne, Christine Fréchette, franchement. Beaucoup de réparties. Elle a fait des annonces très intéressantes, dont une itinérance ici, hier, à Québec. C'est une méchante belle première semaine pour la nouvelle première ministre.
C'est une bonne première semaine. C'est sûr que là, tu arrives en poste, tout est beau, tout est rose. On s'en rappelle, c'était la même chose avec Charles Milliard.
Ben oui.
On va y revenir, ça peut changer vite. Mais bonne première semaine. Le plan de match était établi sur la succession. Il est suivi à merveille. Puis jusqu'à maintenant, c'est pas mal un sans faute. Puis bien franchement, c'est frustrant pour les autres partis. Mais on l'a vu, Jeff, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu lors des dernières élections fédérales. Quand les cartes, le jeu change, ce n'est plus M. Legault qui est là. Te rappelles-toi comment ça a été long, esprit, avant, comment il s'est accroché longtemps, Pierre Poilievre, à taper le chou de Justin Trudeau, parce que ça l'avantageait donc bien. Ça doit être très frustrant pour les autres partis, dont le Parti québécois, de voir là, que c'est plus M. Legault, c'est une nouvelle personne qui arrive avec un nouveau style. C'est vrai que c'est un style qui est quand même différent, et plus dans la discussion, la réflexion, on va s'asseoir, puis on va user de diplomatie. Que M. Legault, qui était parfois plus dans le cassage de vaisselle. Fait que c'est pas la même personne. Puis qu'est-ce que tu veux? Ben, le chef d'un parti, c'est une grande partie du parti. Fait que là, c'est un nouveau joueur, c'est un nouvel adversaire. Puis je pense que chaque formation politique va devoir s'ajuster. Parce que c'est vrai au final que c'est le même bilan. C'est le même parti. C'est une ministre qui a fait 4 des 8 années avec eux autres. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un nouveau visage, c'est une nouvelle énergie. Puis autant que c'est frustrant, c'est un petit peu de recommencer à zéro sur le plan de quels vont être nos angles d'attaque, tout ça. Fait que, écoute, bonne première semaine pour Mme Fréchette. Voyons voir si ça se poursuit. C'est sûr qu'elle met la barre haute, par contre. Hein? On l'a entendu, là,
oui.
Elle promet un paquet d'affaires, un paquet de projets de loi. Le DSN, c'est collé.
Écoute, ça joue. Moi, je pense que ça joue pour elle en fin de semaine. Si le DSN réussit, moi, je pense qu'elle va vraiment monter dans les sondages. Si le DSN fait patate, oublie ça, la CAQ va continuer de faire patate.
Ben, genre de voir, je pense pas que si le DSN réussit, ça va se traduire en hausse dans les intentions de vote. Mais chose est certaine, elle s'est collée sur ce dossier-là. Elle a fait une vidéo elle-même lorsqu'ils ont annoncé qu'ils iraient de l'avant. Elle aurait pu seulement donner le vidéo à sa ministre de la Santé puis se garder un bras de distance. Elle a dit non. Les choses sont nouvelles maintenant, c'est moi qui mène, puis ça va marcher, ce projet-là. Je lui souhaite, effectivement, que ça fonctionne, parce que, et j'ai parlé à certains membres de son équipe, ils sont bien conscients du risque qui venait avec le fait de se coller autant sur ce dossier-là. Alors oui, mon pouce en l'air, cette nouvelle formule-là du vendredi, c'est Mme Fréchette qui l'a cette semaine.
Quand tu as parlé avec ces gens-là, là, ils sont bien conscients du risque, etc., est-ce qu'ils avaient des craintes aussi?
C'est sûr qu'ils ont des craintes. Ils ont des craintes. La différence, c'est que là, on a passé à travers sa clique, tu sais. Fait que là, tu sais, on le sent, tu sais, qu'il y a eu vérification par-dessus vérification par-dessus vérification. Mais à un moment donné, there's so much that you can vérification, tu sais. Il y a des affaires que tu ne sais pas.
Que tu vas vérifier sur le terrain.
Ben, tu sais, tu peux vérifier sur le terrain autant que tu veux, mais tant que tu ne l'as pas mis en place, le foutu système, tu n'as pas donné le feu vert, tu ne sais pas là, s'il n'y aura pas des bugs.
Mais c'est ça, pour moi, vérifier sur le terrain, c'est que c'est sûr qu'il va y avoir des petites coquilles ou des affaires comme ça une fois implantées. On ne peut pas penser que ça va être 100% bien fait et tout. Peut-être pour ça qu'on y va doucement, mais en espérant que ce ne soit pas un échec, par exemple, lamentable.
Ben là, à tout le moins, ils vont progressivement dans deux régions seulement au Québec d'abord. Puis, ils ont vraiment là, les yeux devant les trous. Fait qu'ils suivent de très près ce qui se passe. J'ai le feeling que si jamais il y a des pépins, ils vont être réactifs là-dessus. Mais on n'est jamais à l'abri d'un énorme pépin. Et on verra.
Le petit pouce en bas, je devrais dire le gros pouce en bas à cet homme.
Well, I can say that in both official languages, maybe in Spanish if you want to.
Je peux vous le dire dans les deux langues officielles et en espagnol aussi.
Charles Milliard. Quelle semaine difficile par rapport aux langues officielles, par rapport à comment il se positionne sur la clause dérogatoire pour la loi 96, par rapport à Sona Lakoyenne Olivier, qui est reconnu coupable, je vais le dire comme ça, là, qui reçoit un blâme de la commissaire à l'éthique, qui devra payer une amende de 8 000 $. Ça a été une sortie très soft hier.
Mais non, mais là, il a révoqué à vie la carte de membre de PLQ de Lakoyenne.
Oui, c'est ça que j'allais dire. Là, aujourd'hui, il l'a fait, mais hier, c'était comme so-so.
Tu trouvais que c'était trop long?
Ouais, je sais pas. Là,
ben, plus membre du caucus. Il était déjà sorti du caucus, fait qu'il y avait quand même une limite à ce qu'il pouvait faire. Puis l'autre extrait, l'autre élément dont tu as parlé, le lapsus sur les deux langues officielles, moi, j'ai trouvé qu'on avait pesé fort sur le crayon. Là, puis je vais peser fort de mon côté sur le français. Je m'en viens, donne-moi 2 secondes.
Vas-y.
Mais sur le lapsus, tu sais, je veux dire, écoute, là, le gars, il s'est trompé. Il était rendu à 28e minute de son scrum. Il est rendu en anglais. C'est juste le timing n'était pas super bon. On s'entend tout après la séquence sur le français. Mais je trouve que à un moment donné, là, il n'est pas le premier à faire un lapsus, puis il n'est pas le dernier. Il faut quand même en prendre et en laisser. Par contre, c'est sûr que sur le français, puis encore une fois, eux autres aussi, je leur ai parlé, sont pris dans une situation qui est tellement embêtante. Hein,
parce que
c'est une des raisons. C'est comme une situation impossible. La CAQ ont tellement fait ses efforts sur ce clou-là de l'identité de la langue du français pendant 8 ans. Loi 21, loi 96, première réforme de la loi 101, bing, bing, bing. Ils ont comme mis une espèce de prix plancher. T'sais, c'est comme si là, du moment que tu as un parti qui va viser en bas de ça, ils ont comme l'air d'un parti qui veut moins défendre le français. Là. C'est comme si c'était rendu un concours de celui qui va péter plus haut que le trou. Et c'est ça la situation présentement. Puis qu'est-ce que tu veux? Ça va un peu contre leurs valeurs au Parti libéral. Mm-hmm. Eux autres, ils jugent qu'il y a des valeurs, des droits et libertés de personnes allophones et anglophones qui sont empiétées avec ce genre de loi-là. Puis ben ça a toujours été le Parti des droits et libertés. Alors, sont un peu pris là-dedans. Sont un peu pris là-dedans politiquement. En fait, c'est comme si la clause dérogatoire, Jeff, la clause dérogatoire et la loi 96, c'était comme rendu le symbole. C'est comme si clause dérogatoire égale défense du français. Alors que bien honnêtement, Jeff, c'est pas le cas.
Non, non, en effet, tu as raison là-dessus. La clause dérogatoire qui était un simple accessoire est maintenant devenue un débat politique. Bon, Lambert, tu es allé au Costco. Tu t'es acheté une caisse, peut-être deux, peut-être trois, c'est toi qui pourras me le dire, de tomates. Et tu l'as lancé envers la personne dont je vous fais écouter les réactions hier aux sorties de la période de questions d'André Fortin, Yann Lafrenière, Alex Boissonneau et Ruba Gazal.
Moi, j'appuie pleinement mon chef dans sa décision. Je pense qu'il a pris la bonne décision. Elle ne sera pas candidate à la prochaine
élection. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, c'est choquant.
En quelque part, ça vient confirmer ce qu'on dit, nous, depuis des semaines au Parti québécois, à savoir que le ménage n'a pas été fait au Parti libéral. Donc, c'est une culture organisationnelle qui est encore marquée par la corruption.
Elle doit démissionner. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Elle n'est pas digne de la fonction de députée.
Caroline, elle avait dit que c'était de la faute des médias. On parle de Sona Lacoyenne, Olivier, évidemment.
Oui, elle doit démissionner, Jeff.
Ben, elle n'a pas le choix, là.
Elle peut pas prendre sa prime de départ. Je m'excuse, là, au nom là, des contribuables québécois après avoir été tenu responsable sur toute la ligne de ses gestes, ses agissements. Écoute, faire de son bureau de comté le quartier général pour aider la campagne de Pablo, les discussions pour dire à ses employés dans un groupe WhatsApp de supprimer de l'information pour pas que la commissaire à l'éthique y aille accès, les discussions avec son personnel pour les influencer sur leur discours après l'annonce de l'enquête. C'est très grave, ça. On a des institutions en place, on a des règles en place et elle les a contournées sur toute la ligne.
Elle n'a pas l'air partie pour démissionner, par exemple.
Elle n'a pas l'air partie pour comprendre grand-chose depuis le début de cette affaire-là parce qu'elle semblait pas trop comprendre où est-ce qu'elle était dans le temps. Puis la commissaire à l'éthique a à peu près des dizaines et des dizaines de pages qui expliquent clairement où est-ce qu'elle était dans le temps. Fait que si elle n'a pas été aux foutues formations que l'Assemblée nationale donne quand les élus sont élus la première fois, bien rendu là, quand tu n'as pas pris les moyens pour être au courant, tu ne peux pas après ça te fâcher de ne pas être au courant. Alors là, s'il vous plaît, Mme Lacoyanne, c'est de l'argent déjà que vous avez dépensé d'une manière qui ne respecte pas les règles. S'il vous plaît, quittez avant la fin du mandat parce que vous ne méritez pas cette prime-là qui va être payée toujours, évidemment, de la même poche, les contribuables québécois. Alors évidemment, évidemment, la tomate à Mme Lacoyanne, ça aurait pu, j'en ai une petite pour M. Saint-Pierre-Plamondon, Jeff.
Oui, hein, avec Gaby Renault qui se lève pas parce que je me suis jamais levé pour le discours là, à un moment donné.
Ça revient à ce qu'on a déjà parlé, Jeff. T'sais, à un moment donné, là, ce constant besoin d'avoir raison, tout le monde se lève, t'as la sœur de la fille qui s'est fait tuer, qui est dans les estrades.
Ben oui.
Je comprends que c'est pas dans les habitudes. Je comprends que c'est pas ton genre de faire ça. Je comprends tout ça. Mais il y a des moments, il y a des endroits, et c'était un moment et un endroit pour faire comme tout le monde, fermer te lever, faire acte de présence, montrer à tout le monde que, regardez, je suis capable de mettre la partisanerie de côté quand le temps est nécessaire. Je suis quelqu'un qui aspire à être premier ministre. Je me lève et je ne serai pas en train d'en parler aujourd'hui s'il avait tout simplement fait ça.
Je suis d'accord à 100%. On termine avec l'étoile dans le cahier et on va le recevoir en entrevue à 13h30. Youri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme, qui a dit « C'est assez les folies de cartes électorales sur une napkin parce que ça fait pas votre affaire. On fera pas ça. »
Ben oui, puis j'y ai parlé ce matin. Tu vas voir, ça va être une discussion intéressante que tu vas avoir avec lui. Puis ça a un peu changé la façon dont je voyais les choses. Moi, je voyais ça aller, je me disais, hey, toutes les parties sont du même avis, tu sais, ils veulent sauver une circonscription en Gaspésie pour pas que le député qui va couvrir cette circonscription-là doive faire 6 heures de route pour aller de bord en bord. Puis là, j'ai parlé avec Youri aujourd'hui, puis j'ai lu le texte de Mario Dumont aussi ce matin dans le Journal de Montréal, puis écoute, il a raison, il a raison. À un moment donné, on a mis des instances indépendantes en place pour pas que ce soit... pour pas que ce soit le politique qui se mette les mains dans ça, pour pas que ça fasse exactement comme ce qui est en train d'arriver aux États-Unis avec le gerrymandering, où ils font du bricolage avec les cartes électorales des différents États pour être en mesure de se donner les meilleures chances aux prochaines élections. On ne veut pas que les politiciens commencent à jouer dans les circonscriptions et dans les règles électorales au gré du vent. Et les quatre partis ont beau être d'accord cette fois-ci, les quatre partis sont dans le tort. Il y a une raison pour laquelle on a ces règlements-là, pour que le vote de chaque Québécois ait la même valeur. Et présentement, selon le plan de ces quatre partis-là, ben le vote d'une personne en Gaspésie aurait plus de valeur que le vote d'une personne qui habite à Montréal ou dans les couronnes. Et ça, que veux-tu? Ce n'est pas acceptable. Alors bravo, bravo à Youri Chassin qui démontre que oui, ça compte le travail des députés indépendants et que oui, chaque vote compte. Et bravo aussi au directeur général des élections qui, s'est opposé fortement à la démarche des quatre partis politiques. Laissons ce genre de décision-là entre les mains des instances indépendantes qu'on a mis en place et laissons-les faire leur travail.
Je suis d'accord à 100%. Lambert Drainville, merci beaucoup. C'est une chronique que j'apprécie énormément et qu'on va continuer à faire le vendredi. Les petits pouces en l'air, les petits pouces en bas, les tomates, les étoiles. Puis moi, je te le dis...
Il nous pointe son chandail.
Je te souhaite un excellent match ce soir. Puis moi, c'est 5 caisses de tomates Costco que j'ai lancées à Sona la Cayenne, Olivier.
Bon, ben parfait. On se redonne des nouvelles de nos tomates la semaine prochaine.
Oh yes, et bon week-end de hockey, mon ami. Salut!
Oh les amis, bye-bye.
Salut.
Lambert Drainville en chronique avec nous. De deux fois par semaine, les mercredis et vendredis. Pascal, à Boulevard Salon, on est très touché par la cause des femmes, la cause de la violence conjugale. Puis on travaille très fort en sensibilisation pour pas que ça se transforme en féminicide. Là, il y en a déjà 10 depuis le début de l'année. Et on a déjà dépassé le nombre de l'an passé. Ça n'a aucun sens ce qui se passe à l'heure actuelle au Québec en termes de violence conjugale. Tu sais, là, les gars, là, qui se font laisser, là, ou les gars que ça va pas bien avec votre blonde, là, ben la violence, ce n'est pas du tout la voie à emprunter. Et après la pause, on va parler avec Annick Brazo, qui est présidente justement du regroupement des organismes et des maisons là, pour les femmes violentées. Parce que, Caroline Nabine, Pascal, on a tellement de femmes violentées qui manquent de place dans les maisons.
Dans les centres d'accueil.
Oui, dans les centres d'accueil, les maisons pour aider les femmes. Puis là, s'il y a bien un problème de société, je pense que Christine Fréchette pourra essayer de régler dans les 5 prochaines semaines. C'est celui-là.
Puis, tu sais, ça va souvent avec la situation d'itinérance par la suite, là.
Oui.
Quand tu n'as nulle part où aller ou encore de rester dans ta position qui est extrêmement violente et inappropriée, toxique.
En effet, t'as entièrement raison. Donc, entrevue avec Annick Brazo immédiatement après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
14h, on en jase.
Déjà 13h17, le week-end qui pointe à l'horizon, les amis. Malheureusement, c'est sous une température présentement très nuageuse. C'est quelques averses. Il y a même des gens qui nous ont dit qu'il grêle à des places. Tantôt, ça avait l'air de des petits flocons de neige fondant. Mais c'est 12 degrés quand même. Ça devrait se dégager ce soir parce que demain, c'est une journée d'alternance de soleil et nuages à 16 degrés. Pour dimanche, c'est 15 degrés avec 60 % de possibilité d'averse. On vous le rappelle, la meilleure façon de nous écouter, évidemment, c'est les ondes hertziennes. Pour communiquer avec nous, c'est le 418-971-1021. Mais n'oubliez pas, blvd.fm, c'est notre web radio. Également, c'est à cet endroit-là que vous retrouvez les meilleurs moments. Notre application BLVD-1021 qui est disponible également gratuitement sur App Store et Google Play Store. C'est une autre belle façon de nous écouter. Et si vous avez un haut-parleur intelligent à la maison, vous êtes écouté BLVD-1021. On apparaît. Vous avez également notre chaîne sur la page YouTube. Abonnez-vous, Boulevard 101. Vous retrouvez notamment les podcasts. Donc, vous avez dans les podcasts, justement, les grands événements avec Denis Gravel. Cette semaine, c'était avec Roger Ferland. Tiens, Caro qui nous écrit « Je fais un jog de 8 km sous la pluie et la grêle. » Wow, Caro, félicitations.
Notre collègue Mathieu Marcotte qui testait les Avelo aujourd'hui.
Ah, ben oui, que non ça. C'est la journée pour ça.
On pense à vous, les gens à l'extérieur.
C'est ça, Caro. félicitations pour ton jog. Bravo de te garder en forme. Pascal, avant qu'on parle avec Annick Brazeau, qui est la présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oui, c'est loin d'être positif, mais si le nom de Roméo Gouverneur vous dit quelque chose, c'est un jeune homme de 23 ans. Peut-être en parler à vos enfants aussi, surtout les mineurs, parce que dans le cadre d'une enquête criminelle qui est menée par nos policiers ici à Québec sur les délits familiaux et les agressions sexuelles, eh bien, on est allé arrêter à nouveau ce jeune homme-là qui était dans le secteur Jouvence pour bris d'engagement en lien avec des infractions de nature sexuelle. Il était interdit pour lui de communiquer avec des personnes âgées de moins de 16 ans. Et je vous rappelle que toute cette enquête-là a débuté à la fin de l'année 2024 parce que ça impliquait une victime mineure, victime de Roméo Gouverneur. Nouvelle dénonciation ensuite en avril dernier. On a procédé à une seconde arrestation et on a encore des raisons de croire qu'il aurait pu faire d'autres victimes qui n'ont jamais dénoncé en ce moment, pendant qu'il occupait entre autres une position d'autorité dans le milieu sportif. Le jeune homme, je vous rappelle, a 23 ans, il s'appelle Roméo Gouverneur. Si vous avez ne serait-ce qu'une information, quoi que ce soit, peut-être une petite discussion avec vos enfants aussi, eh bien, sachez que les policiers attendent votre appel. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On va y aller en manchette alors avec les principales. Charles Milliard a révoqué à vie la carte de membre du PLQ de Sonia Lacoyenne-Olivier, donc Sona qui a eu un blâme de la commissaire à l'éthique. On vient d'en parler quand même pas mal avec M. Drainville.
Oui.
Mais elle était déjà exclue du caucus. Là, on ajoute ça, le chef du Parti libéral a convoqué l'exécutif du parti pour exiger là, que cette carte de membre de Mme Sona Lacoyenne-Olivier soit révoquée de façon immédiate et permanente. Québec a annoncé 1 million d'heures supplémentaires au soutien à domicile pour la santé ce matin. Conférence de presse suivie, entre autres, avec Sonia Bélanger, ministre de la Santé et responsable des aînés. On veut finalement ajouter des nombres d'heures pour le soutien à domicile pour améliorer la qualité de vie des gens qui souhaitent rester à la maison le plus longtemps possible dans leur vieillesse. On veut réduire la pression sur le système de santé de cette manière-là. Donc, des fonds fort attendus. Une volonté aussi claire à ce niveau-là. Demain, c'est officiellement l'implantation du projet pilote dans 3 régions pour le dossier santé numérique. C'est la façon d'ajouter une certaine technologie et modernité à notre réseau de la santé. Et il y a des mots tabous qui ont été envoyés et listés par Santé Québec aux employés de la santé. Alors, c'est des directives qui sont très précises. Hein? Il y a des mots qui sont absolument interdits de dire en présence d'usagers dans le cadre de ce déploiement du DSN. Entre autres, on a des problèmes techniques. Le système est en panne. Ne vous inquiétez pas, ça va bien aller. Ça, c'est mis à l'index pour le déploiement du DSN. Tout compte analysé là, sera une préoccupation, en fait, pour le système de santé. On veut que tout le monde soit positif et on a même proposé la façon d'en parler. Alors,
est-ce qu'on a un champ de ralliement?
Non.
Comme les cheerleaders, non?
Non, il n'y a pas non plus de chansons ou que toute l'équipe, un peu comme dans un restaurant, là, quand c'est l'adversaire de quelqu'un embarque.
Ouais,
non. Non.
Il n'y a pas ça. OK, bon. Je suis déçu.
Il n'y a pas ça. S'il y a ça, ben mettez-nous au courant.
Il y a les féminicides qui sont en forte hausse au Québec, déjà 10 depuis le début de l'année. Ça dépasse le total de l'année 2025. Les ressources pour les femmes victimes de violences conjugales débordent. Et pour en parler avec nous, on a Annick Brazeau, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Madame Brazeau, merci de participer à l'émission d'Anjas.
Bonjour.
Madame Brazeau, moi, ça me fend le cœur, ça me scie en deux de voir une hausse de la violence conjugale comme ça en 2026, alors qu'on fait énormément de prévention et qu'on est beaucoup d'hommes à parler à nos hommes en disant « ça n'a pas d'allure ». Pourquoi cette violence-là augmente, selon vous?
Ben, écoutez, c'est dur à savoir hein, si c'est parce que ça l'augmente. C'est sûr que, justement, comme vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, on en a beaucoup parlé et tout. Donc, plus qu'on sensibilise, plus qu'on en parle, plus qu'il y a des femmes qui font appel à nous. Donc, ça, c'est dur à évaluer hein, si c'est qu'il y a plus de violence. Mais la bonne question qu'on pourrait se poser aussi, c'est pourquoi il y en a encore aujourd'hui, en 2026, avec toutes les ressources qu'il y a. Vous savez, oui, on investit beaucoup d'argent. Il y a des ressources qui sont disponibles, des programmes, de la publicité. Bon, il y a plein de choses, de la formation. Mais c'est sûr qu'il faut s'adresser aux problèmes de fond si on n'en veut plus de violence conjugale, hein, c'est les rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Donc, oui, on mise des programmes dans les écoles au niveau des jeunes. C'est toute la société. Il faut travailler à ce que les rapports entre les hommes et les femmes soient égaux. Et c'est comme ça qu'on va travailler à réduire la violence conjugale là, plus amplement. Fait que là, sinon, ben on doit toujours répondre aux besoins des victimes et tout ça. C'est correct qu'on le fait, c'est super important. Mais si on veut s'adresser, qu'il n'y en ait plus de violence, il faut le travailler dans les écoles, dans la société. Il faut lancer des messages clairs que la violence est inacceptable.
Concrètement, comment vous voyez ça, de faire en sorte que ça devienne plus égalitaire dans la société?
Ben c'est dans les messages qu'on lance, c'est ça, dans la formation, dans les sensibilisations qu'on fait, dans les cours qu'on donne aux jeunes, c'est sûr, hein, sur les rapports égalitaires. C'est toutes les familles qui nous écoutent aussi en ce moment, ben c'est de transmettre à nos enfants ces valeurs-là, les familles, les enfants, les oncles, les tantes, tout le monde autour des gens. Nous, comme personnes, comme individus, quand on est témoin, quand on entend des commentaires qui sont inégaux, de les briser, ces commentaires-là, de nommer que c'est pas acceptable. Donc, dans nos émissions de télé, un peu partout, dans les publicités, dans ce qui se passe sur les médias sociaux, de s'assurer que c'est égalitaire. Puis là, vous savez, la montée du masculinisme en ce moment qui n'aide pas à ces rapports-là, justement, donc de développer des programmes pour stopper ces tendances, stopper ces commentaires, ces discours-là, parce qu'ils sont complètement inégalitaires. Donc, ça nous aide pas.
On a plusieurs femmes à l'écoute. Malheureusement, dans celles qui sont à l'écoute, je suis certain qu'il y en a au moins une présentement qui est victime de violences conjugales. Comment, tu sais, c'est quoi qu'il faut surveiller pour me dire, hey, là, mon conjoint va vraiment trop loin? Puis, à quel moment on fait appel, justement, à vos services?
Bien, en fait, il y a plusieurs signes là, que les femmes peuvent détecter, comme par exemple bien, quand votre conjoint il a changé, quand il vous contrôle, qu'il vous limite, qu'il veut plus que vous parlez à d'autres personnes, qu'il vous questionne sur vos allées et venues, tu sais, des fois de demander d'avoir accès à la géolocalisation du téléphone, tu sais, c'est toutes des façons de contrôler. Donc souvent ça s'installe subtilement comme ça. Puis quand, mettons, justement, est allé quelque part sans lui dire ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné à sa façon, bien là, il y a une réaction, il y a une violence qui a lieu. Donc, c'est sûr que c'est des façons de pouvoir le voir. Quand elle n'est pas confortable avec ce qui se passe, puis que quand si elle nomme ou elle a peur de le nommer, c'est des bons indicateurs. Quand tu n'es pas capable de... Tu ne mets pas tes limites, admettons, ou si tu as peur de les mettre parce qu'il va y avoir des conséquences, c'est des bons signes que tu es avec quelqu'un qui est contrôlant là, ou qui est violent. Ensuite de ça, votre question, ben, quand c'est le meilleur moment? N'importe quand. Il y a des femmes qui le savent pas, là, qui se disent, je suis pas sûre que c'est ça. Ben, appelez-nous, bon, on va vous aider à identifier. On a des outils pour faire avec vous, pour pouvoir vous aider à identifier si vous êtes victime de violence. Des fois, c'est à surveiller. Hein? On se questionne, on le sait pas. Mais c'est ça, les femmes peuvent nous téléphoner, nous en parler. On va valider avec elles leurs sentis. On va pouvoir regarder avec elles c'est quoi les outils, des scénarios de protection qu'elles peuvent faire. Si elles veulent quitter, on va pouvoir les aider à comment faire ça de façon sécuritaire. On a plein d'outils avec les femmes. Puis on parle d'hébergement. Hein. Il y a des femmes qui veulent pas héberger, qui veulent recevoir nos services. Donc, elles le font en cachette de leur conjoint pour pouvoir nous rencontrer, travailler des outils, mieux comprendre ce qu'elles vivent et pour les aider à prendre leurs décisions par la suite. Donc, c'est des rencontres qui se font des fois pendant qu'elles sont au travail. Ça peut être en Zoom. On est très créatives parce qu'on sait que des fois, il faut que ça soit fait en cachette justement pour leur sécurité. Donc, on est 24/7 le soir, la nuit, la fin de semaine. Donc, les femmes peuvent nous appeler, trouver un moyen de le faire à cachette quand ils sont chez quelqu'un d'autre, chez une amie, pour nous appeler puis avoir une discussion avec nous. Que ce soit au téléphone ou en personne, on s'organise avec elles là, pour pouvoir organiser ça, que ça soit sécuritaire.
Mais parfois, c'est très complexe parce que ces femmes-là éprouvent de l'amour quand même pour le partenaire avec qui ils sont, même si c'est violent, même si c'est toxique. Puis cette chose-là qui est l'amour vient qu'à brouiller un peu les cartes puis la possibilité de bouger parfois. Ça doit être souvent dans ces circonstances-là?
Bien, comme vous dites, l'amour fait ça, hein, le fait qu'il n'est pas toujours comme ça. Des fois, il peut se passer quelque chose puis pour effacer ça ou embrouiller les questionnements que la femme pourrait avoir, bien là, il va faire des belles actions devant les autres. Il va être « wow ». Ça se passe pas tout le temps, à tous les jours non plus. Cette violence-là, il y a beaucoup de manipulation. Il y a des excuses aussi de pourquoi il agit de telle façon. Donc, c'est tout... Bon, nous, c'est le cycle de la violence, là. Donc, il y a toutes des façons qui expliquent pourquoi que les femmes restent. Puis des fois, bien aussi, c'est ça, c'est que l'auteur de violence, il joue avec sa tête, il joue joue avec ses sentiments. Il fait même réussi à lui faire croire que c'est de sa faute. Donc, il y a plein de raisons pourquoi que les femmes, c'est pas aussi clair qu'elles quittent. Puis des fois, pour les gens dans l'entourage, pour les gens autour, on comprend pas. On est inquiète pour cette personne-là. Donc, j'invite aussi aux proches, des fois, quand vous savez pas quoi faire, vous êtes inquiet, vous savez pas si c'est de la violence que l'autre personne vit, mais vous pouvez appeler aussi les proches, hein, les maisons d'aide et d'hébergement pour avoir des conseils, pour avoir des pistes. Faut y aller avec la personne où ce qu'elle est rendue. Mais pour certaines femmes, c'est plus difficile de prendre des décisions. Puis il y a pour certaines femmes qui veulent venir chercher des réponses, mais qui veulent retourner à la maison puis continuer de voir si ça va changer et tout. Puis nous, on accompagne les femmes dans leur cheminement. Alors, c'est vraiment un cheminement, la violence conjugale.
Maintenant, il manque de place, justement, dans les différentes ressources, les différentes maisons pour femmes victimes de violences conjugales. Il en manque combien? C'est quoi vos attentes pour le gouvernement? Parce que là, on a une nouvelle première ministre, on s'en va en campagne électorale, puis c'est le temps d'investir dans le domaine de la violence conjugale.
Oui, bien, en fait, tu sais, je veux dire, on manque de place. Oui, c'est sûr et certain. Ça fait des années qu'on le nomme. Ça, le problème s'amplifie. Mais il y a des moments qu'on en a de la place, puis on a des solutions entre-temps, et puis il y a des régions que c'est pas critique. Donc, j'invite vraiment les victimes à appeler quand même dans les maisons d'aide et d'hébergement. On a des solutions. C'est sûr que nous, on le nomme haut et fort, nous avons entendu dans les médias, parce que il y a des régions que c'est critique. Il y a des moments qui en a pas de solution, puis il faut que le gouvernement nous entende de dire, chaque femme, là, elle devrait pas aller dans une autre région parce qu'elle a besoin d'une maison. Mm-hmm. Elle devrait pas attendre quelques jours. Elle devrait pas aller chez une amie en attendant qu'on ait de la place. Elle devrait pas faire ces choses-là. Les familles devraient avoir de la place dès qu'ils en font la demande. Et des projets de construction de maisons d'hébergement, ça prend énormément de temps à mettre en place. Donc, c'est ce qu'on demande au gouvernement. On a fait des travaux pour évaluer quelles régions il en manque, combien il en manque. On est sur un comité avec eux. On est prêt à soumettre les informations. Puis on veut qu'ils travaillent là-dessus pour le planifier comme ça prend du temps parce que malheureusement, ça diminue pas. D'année en année, le problème s'accentue. Et puis, il faut vraiment trouver des solutions pour les femmes victimes de violences conjugales pour qu'elles puissent avoir parce qu'une maison d'hébergement, hein, c'est un endroit sécuritaire. Il y a des femmes qui ont besoin de sécurité, qui sont en danger. Nos maisons sont faites sécuritaires. Donc, il faut permettre plus d'endroits comme ça. Mais en attendant, on a des solutions, mais c'est des solutions qui sont pas solides, qui s'effritent. Peuvent pas devenir une façon de faire courante.
Mais on comprend qu'en ce moment, vous voulez quand même faire la promotion du fait qu'il y a des ressources, que vous êtes là pour pas que ça dissuade une femme d'aller de l'avant dans sa recherche au confort, sa recherche à fuir la situation dans laquelle elle est. On l'entend très bien dans votre discours de dire j'ai pas le choix de dire que les solutions sont là, mais en même temps, il faut beaucoup mettre de lumière aussi sur les manques qu'on a pour travailler en amont là-dessus, vu que ça prend du temps. Puis souvent, ça va avec un engrenage. Nous, on le voit ici à Québec, entre autres, des femmes qui trouvent pas refuge ou autre, qui malheureusement, parce qu'elles veulent vraiment sortir de là, puis qu'il y a un certain cheminement qui a été fait, puis sont complètement lucides dans tout ça, se ramassent à la rue. Et donc, le phénomène de l'itinérance est amplifié, etc. C'est comme une courroie transmission où tout le monde est un peu attaché.
Oui, puis tu sais, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des femmes qui sont pas prêtes à quitter tout de suite, mais celles qui sont prêtes, là, puis qui ont fait le choix, ils ne peuvent pas retourner à la maison parce qu'ils n'ont pas d'autre option, vous comprenez? Pour leur sécurité, c'est encore plus en danger. Et puis les femmes, quand elles veulent quitter, c'est maintenant. Donc, il faut vraiment travailler à des solutions, comme vous dites bien. C'est ça qu'on tente de nommer depuis plusieurs années aux différents ministres là, concernés, parce qu'il faut vraiment travailler là-dessus.
Madame Brazeau, présidente, Annick Brazeau, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, merci de nous avoir accordé ces minutes à l'émission. On en jase, on parle régulièrement de violences conjugales, de violences faites aux femmes. On continue à sensibiliser nos hommes pour qu'ils prennent le droit chemin. Donc, c'était très pertinent de vous parler. Puis, on a beaucoup de politiciens qui viennent nous voir, Pascal, à Boulevard. On va leur en parler, hein, de violences conjugales, de maisons d'hébergement. Campagne électorale serait bon. Qu'on prenne ça en main comme on vient de prendre l'itinérance en main hier.
Oui, puis tu sais, la question de pourquoi c'est en augmentation, c'est parce qu'elles ont plus le courage de s'en sortir, d'aller chercher de l'aide. Moi, ça, là, j'aimerais beaucoup le comprendre. Il manque d'informations sur le pourquoi c'est en montée. Puis merci à Fred, un auditeur, qui dit pour les hommes qui ont des comportements violents qu'ils savent ou qui ont besoin de parler, il y a Autonomie. C'est un centre de ressources pour hommes sur la 3e avenue à Limoilou. Il y a un numéro de téléphone qui est associé à ça, facile à googler. Excellent centre pour les hommes qui ont des besoins de services de toutes sortes. Quand tu es un peu conscient de ta situation, si c'est parce que ton passé, tu as vécu ça, si c'est même tu as appris l'amour, si tu as une mauvaise gestion de tes émotions, si tu as peur toi-même de ce que tu peux faire, Autonomie, Exactement. Ici à Québec.
Annick Brazeau, merci beaucoup.
Merci à vous deux.
Merci, au revoir, bonne fin de journée. Oh, je suis toujours bouleversé quand je fais ce type d'entrevue-là. Avec qui parle de violence faite aux femmes, violence faite aux enfants. D'ailleurs, ça me fait penser ce matin à Boulevard, dans Marceau le matin, à Boulevard 101, c'est disponible sur le boulevard.fm. On a reçu une des victimes de Gilles Tardy.
Ouf, c'était touchant, ça.
Ah oui, 8 ans. Elle a été séquestrée pendant 2 jours, puis elle s'est mise ça sur le dos de 8 ans à 28 ans. Oui. Pendant 20 ans, elle a vécu ça en disant « c'est de ma faute hey, ». Pauvre petite fille.
Ah non, c'était difficile, mais c'était essentiel ce matin.
Vraiment. On fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on va parler de cartes électorales avec Youri Chassin. Donc, restez avec nous parce que Youri Chassin s'est levé debout pour le bien de la démocratie. T'es, je le dis comme ça, au Québec, là, on est bon pour faire la leçon aux autres. « Hey, Donald Trump, ça n'a pas d'allure au Texas. Regardez, il essaye de revoir la carte électorale pour que les Républicains passent. » Mais nos 4 partis politiques étaient en train de faire ce qu'ils décriaient de Donald Trump. Je trouvais ça très drôle. Ça en a pris un qui se lève pour arrêter, justement, cette comédie. Alors, on va parler avec lui. Youri Chassin, retour de la pause à Boulevard 101. Émission en jazz. Il est déjà 13h40. Vous le savez, c'est le retour de Gravel par la suite. C'est avec Denis Vérot, puis ça va être avec Max Larouche parce que notre Audrey nationale a des petits problèmes de santé, malheureusement. Ouais. On souhaite qu'elle ait mieux dans les prochains jours. Donc, ça devrait jaser pas mal de hockey, de nouveautés musicales. Ça devrait niaiser rien qu'en masse. Max qui va tout de suite après ça aller rejoindre ses chums à Cage au Sport pour le match de ce soir. D'ailleurs, 418-971-109, vous allez l'écouter où le match de ce soir du Canadien contre les Sabres? Moi, j'écoute ça sur le bord d'un terrain de football. Je vais varier mes yeux entre mon Edou qui joue en défensive au flag football et le Canadien. Donc, quand ça va être l'offensive de l'école des sentiers sur le terrain, peut-être que je vais moins regarder le match de flag football, Pascal. Déjà, là, je...
Moi, j'ai l'impression que ça va être moins coupable. Ça va être là de corps, mais pas d'esprit, mon
c'est
homme.
C'est ça, je plaide déjà coupable. Je vais peut-être un petit peu moins crier « Go, sentier, go » quand l'offensive va être sur le terrain, puis je vais regarder le match, là, tu sais, comme on dirait, là, un peu en crosseur sur le bord, là, sur le side. Là. C'est ce que je vais faire. Hey, les partis politiques, justement, parlant d'essayer d'en passer une petite vite, ben, les 4 partis politiques à l'Assemblée nationale, ils ont essayé de passer une petite vite à la population, puis de dire, savez-vous quoi? On a des instances indépendantes qui s'occupent de gérer la carte électorale. Ils ont fait des recommandations pour que ça reste à 125 circonscriptions. Puis ça va donner une circonscription un peu plus grande en Gaspésie, mais que voulez-vous? C'est la vie, c'est comme ça, c'est la démographie. Mais là, les 4 partis politiques qui ont dit, il n'y en a pas question, on va faire 127 circonscriptions. Bien, il y a un homme à l'Assemblée nationale sur les 125 députés qui s'est levé pour empêcher ça. C'est Youri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme. Et il est au bout du fil avec nous. Monsieur Chassin, merci de prendre le temps de nous jaser.
Ça fait plaisir.
Monsieur Chassin, je dois vous dire, je l'avais dit hier, j'étais en défaveur de cette nouvelle carte électorale à 127 circonscriptions. Je suis très heureux que vous ayez eu le courage de vous lever en chambre. Expliquez-nous pourquoi, justement, vous l'avez fait.
Puis, en toute franchise, en toute transparence, c'est pas nécessairement parce que ça passe à 127. C'est plus, justement, parce qu'on a adopté une loi, hein, comme un cadre là, juridique qui nous gouverne. C'est-à-dire que ce ne sont pas les députés qui font la carte électorale. C'est, la carte électorale, c'est comme si tu justifies un peu notre légitimité à nous, là, comme élus. T'sais. Donc, on donne ça au directeur général des élections qui préside une commission de la représentation électorale. Et à toutes les deux élections, ils sont mandatés pour faire une révision de la carte en fonction notamment de la répartition de la population et aussi les critères, puis là, évidemment, devant la Cour, là, parce que ça a été jusqu'en Cour suprême, là, mais il y a des critères, par exemple, qui peuvent être utilisés de représentation effective, puis il y a tout un débat juridique là-dessus, mais à la fin, qui décide, c'est le directeur général des élections qui fait paraître à la Gazette officielle la nouvelle carte en disant, voici la nouvelle carte électorale, dans 6 mois, jour pour jour, elle rentrera en vigueur. Et c'est ça qui va nous guider. Donc, on utilise la vieille carte. Puis maintenant qu'on a fini notre processus de révision, là, voici la nouvelle carte qui va entrer en vigueur dans 6 mois. Fait que là, on a eu la nouvelle carte qui est parue le 14 janvier. Donc, le 14 juillet, il y a une nouvelle carte qui va être en vigueur. une carte à 125 comtés, avec un comté de moins en Gaspésie, un comté de moins à Montréal, un comté de plus sur la Rive-Sud, un comté de plus dans les Laurentides. Puis, on va, à mon avis, errer gravement si on essaie de se mettre les deux mains dedans à l'Assemblée nationale, alors que c'est pas notre job. Mmh.
Comment est-ce qu'on explique que vous êtes à contre-courant de tellement d'autres personnalités politiques? C'est intéressant, ça, pour les gens qui nous écoutent. On est très dans le nerd politique là, avec ce sujet-là, mais ça les concerne-t-il?
C'est une bonne question. Je sais pas si... Je pense que le fait d'être indépendant, puis de, à la limite, là, de pas avoir aucun intérêt dans le sens où moi, je me représente pas. Donc, j'ai pas de parti pris, mais c'est sûr que je regarde ça aller, puis je me dis, y a-t-il quelqu'un qui va se lever pour dire, il me semble là, que quand on vote des lois, puis quand on a des cadres là, clairs comme celui-là, ben on demande à la population de respecter les lois, mais on va la respecter aussi, nous, comme institution, comme Assemblée nationale, on va la respecter comme gouvernement aussi. Le gouvernement n'est pas au-dessus de ses propres lois, là. Il doit les respecter aussi. Puis là, ben, on est un peu dans le... Je sais pas, je suis peut-être un peu iconoclaste, là, mais on est un peu dans une question fondamentale.
Vous voulez protéger les électeurs de quelque chose qu'ils ne voient pas venir avec cette façon de faire-là?
Ben, des fois, peut-être le politicien moyen, on comprendra pourquoi, il dit souvent, ben, OK, c'est un bon équilibre, hein? Il y a des gens qui veulent telle affaire, il y a des gens qui veulent telle autre affaire. On va comme se situer un peu au milieu. Puis, moi, j'ai l'impression que c'est ça le projet de loi qui a été présenté par le ministre Roberge. C'est un équilibre, mais il y a des principes qu'il faut respecter. Puis, les principes, c'est pas un équilibre, c'est pas un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est que il y a des vrais principes, puis ça, c'est clair, c'est net. Puis la primauté du droit dans nos sociétés libres et démocratiques, hein, c'est pas négociable.
Craignez-vous justement que si on laissait passer ça, bien là, après ça, le reste des politiciens pourraient toujours jouer dans la carte électorale et, à un certain moment donné, avec un gouvernement majoritaire, quasiment venir la mettre à sa main pour pouvoir demeurer au pouvoir?
Monsieur Chassin?
Est-ce que vous m'entendez?
Maintenant, oui, alors, oui. Avez-vous entendu la question de mon collègue?
Oui, moi, j'ai très bien entendu. Mais vous soulevez un excellent point parce que même si c'est vertueux, là, même si les intentions sont les meilleures du monde, à partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, pour des bonnes raisons, là, par exemple, pour la Gaspésie, puis ben on ouvre la boîte quand même. Hein, puis ça va être pas le prochain prétexte. Qu'est-ce qui va faire qu'on va revenir là, au processus indépendant? Moi, je le vois pas. Là, on a ouvert la canne de verre. C'est ça le problème aussi. C'est là où on crée un précédent qui est dangereux.
Youri Chassin, merci beaucoup de nous avoir donné votre opinion aujourd'hui à l'émission N'en jase sur Boulevard 102. On comprend très bien votre démarche. Et là, c'est vrai, en terminant, juste pour bien comprendre, avec votre démarche, le processus est bloqué. Et là, qu'est-ce qui va arriver pour la prochaine élection? Est-ce qu'on va se retrouver avec la nouvelle carte?
Normalement, oui. Mais, tu sais, moi, j'ai bloqué ça jeudi après-midi. Puis, à peu près 1h15 plus tard, quand j'étais sorti 2 minutes, on voit là, qu'il essaie de revenir pour redemander le consentement, même si ça a été refusé une première fois.
Okay.
Combien de fois ils peuvent revenir, ça, je ne sais pas.
Donc, on va être dans cette joute politique-là pour les prochaines semaines et on va suivre ça très attentivement. Merci beaucoup, M. Chassin. Au revoir.
Au revoir.
Youri Chassin, député indépendant de Saint-Jérôme, on revenait sur cette carte électorale. Tu vois, on est dans le même combat qu'aux États-Unis, tu sais, où les partis politiques pourraient venir jouer dedans pour être en leur faveur. Fait que moi, c'est ça que je trouve, on manque de conséquences.
Le débat, c'est quasiment un débat de droit, là.
Ben oui.
Il est super important, là.
Clairement.
Des fois, il faut se détacher de l'enjeu politique pour aller voir, bon, au niveau société. Puis ça, là, Farnell Morissette en parlait souvent.
Oui.
C'est quelque chose qui me... Ben, écoute, il se lance en politique. Moi, je suis contente pour l'homme parce que je sais pourquoi il se lance en politique. Après, on lui souhaite la meilleure des chances. La politique étant, on va être critique, etc.
Exactement.
Mais c'est le genre de débat important qu'il faut amener. Puis quand il faisait le débat avec justement Lambert-Drainville là-dessus, t'avais le côté politique puis t'avais le côté plus juridique. Mais il est là. L'importance est là parce qu'à chaque fois que tu ouvres une porte, quelqu'un pourrait en profiter par la suite. Puis on peut pas faire comme si... quand il y a de l'homme, il n'y a pas d'hommerie. Parce
exactement.
Que quand il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Puis la ben question oui. que tu as posée, effectivement, il y a un parti à un moment donné qui pourrait se dire, pour être avantageux pour moi, je vais
exactement.
Jouer dans la carte.
Je vais te faire un parallèle. Encore hier, c'est la Cour du droit international qui disait à Donald Trump, tu n'as pas le droit, tes tarifs de 10 % que tu as mis après qu'on t'ait enlevé ta surtarification par la Cour suprême. Ben, ça prend ces instances-là juridiques. Justement, puis là, je nomme Donald Trump en exemple parce que c'est le premier exemple qui me vient.
Il a joué dans beaucoup de choses aussi.
C'est hein? ça. Mais ça prend ces instances juridiques-là pour faire en sorte que le politique n'essaye pas de truquer les choses.
Ouais. Puis ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils veulent faire, mais il faut quand même porter fortement attention à des démarches comme celle-ci. On le sait, c'est peut-être pas conscient et c'est peut-être mm-hmm. pas ce qu'ils souhaitent, soit d'avoir un certain c'est pouvoir ça. Ou contrôle pour la suite des choses, mais c'est pas toujours le parti qui est au pouvoir qui va l'être pour dans les prochaines années. Là.
Exactement. On termine cette émission après cette courte pause en sport. Et Canadien sable ce soir, Pascal.
Tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
On jase la semaine, on fait jouer la meilleure musique la fin de semaine. C'est ça, Boulevard 102.1. Ça commence dès ce soir avec le Garage à Dan à 18h, samedi et dimanche dès 7h. C'est le Rock and Chill avec Audrey Pinchot. Boulevard du Rock les samedis avec Dan Caron, dimanche avec Colosse. Et ne manquez pas, les samedis et dimanches de 15h à 17h, les Colosses du Rock où on fait jouer entre autres du Rage Against the Machine. Et ce week-end, vous avez la chance de gagner des billets pour aller voir Luke Combs le 29 mai prochain au Parc Jean-Drapeau. C'est lors du Boulevard du Rock de 10h à 15h.
Méchant prix, sérieux,
les
ça.
Les samedis et dimanches, et tu le dis, toi?
C'est un des artistes country les plus appréciés dans le monde entier.
Ouais, écoutez, Boulevard, ça va être très payant pour vous. Les gros dossiers. Ben, ce week-end, le gros dossier, Pascal, c'est simple. C'est le Canadien de Montréal contre les Sabres de Buffalo.
C'est ce soir.
Ce soir, 19h sur les ondes de TVA Sports. Le deuxième match, le troisième match sera dimanche 19h. Ça se passe à Buffalo ce soir. Ça se passe à Montréal dimanche. Et dans la Ligue nationale de hockey, toutes les séries se poursuivent, c'est-à-dire Golden Knights contre Ducks, alors que c'est 1-1 présentement dans la série. Samedi, c'est les autres séries. Hurricanes Flyers à 18h. Les Hurricanes mènent 3-0. Et l'Avalanche qui mène 2-0 sur le Wild, c'est à 21h samedi. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Vous allez entendre parler de hockey juste bien en masse. Max Larouche va être là avec son gilet du Canadien. Pascal, t'écoutes-tu le hockey en fin de semaine?
Probablement, jeter un petit coup d'œil.
Ah oui, hein, pas le choix. Nous, on se reparle lundi. Je te souhaite un excellent week-end, mon ami.
À toi aussi, mon ami.
Salut!
Bye!